Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Et oui, l'after continue jusqu'à 1h du matin ici en direct du Qatar avec Daniel Riolo qui est là. Daniel, bonsoir. Avec Lionel Charbonnier qui est là également. Salut Lionel.
Bonsoir à tous.
On va refaire un bonsoir, je crois qu'on t'a pas entendu. Bonsoir Daniel.
Ah, on m'a pas entendu.
Ça y est, là c'est bon.
Et bonsoir les amis, voyons. Ah, c'est bizarre.
C'est plus rapide que les micros.
C'est ça. Là, on peut pas dire que c'est de ma faute, il n'y a pas de bouton là. On est pas comme à la maison, comme en studio à Paris.
Tu t'es fait censurer Daniel. Ça commence.
C'est possible.
Messieurs, là, il est 22h04 à Orgeval, minuit 4 à Doha. Je vous dis ça parce que Nicolas Villas est dans les parages. Ah. Nico, bonsoir.
Oh, la vive. Je suis pour Orgeval, enfin, à cette heure-là. J'ai vu le match à Paris. Au boulot.
Ah, d'accord.
À la rédac.
Très bien, très bien.
Non, on était sur Twitch, d'ailleurs, avec les gars de Twitch. Avec Thibaut, avec Sacha et les Mus.
Ah, bah, très bien. Bah, excellente idée. Parce que des fois, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils montent juste notre studio avec juste moi qui fais rien?
Vous faites pas rien, vous bossez, vous parlez, les gens.
Oui, enfin bon, tu vois, c'est un peu statique, tu vois, comme.
Ouais, mais c'est le principe, faut s'y faire. Mais en fait, ils commentent du commentaire. C'est curieux. Enfin, ça peut paraître curieux, mais apparemment, les nouvelles générations adorent ça.
Très bien. Eh ben, écoute, ouais. On est là pour eux. L'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas, jusqu'à 1h tout à l'heure, la libre antenne de minuit à 1h comme tous les soirs de la Coupe du Monde. On aura des invités tout à l'heure, des supporters de l'équipe de France comme d'habitude. Amine et Arthur seront parmi nous tout à l'heure pour parler entre autres de Benzema et des infos du jour. On analyse également les matchs de cette journée de lundi avec Hamza Rahmani tout à l'heure. On aura une spécialiste du Ghana avec nous également d'ici minuit, et puis le Brésil est au programme, tout comme la Suisse tout à l'heure avec vous au 32-16 et puis le 32-16 et puis le hashtag RMC Live et puis Direct Studio disponible pour vous pour débriefer la rencontre, enfin les matchs du jour avec nous, parler de l'actu de la Coupe du Monde. N'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire, faites-le dès maintenant. Bon, démarrons par la victoire du Portugal face à l'Uruguay avant que Nico nous donne son point de vue. Daniel, Lionel, est-ce que vous avez vu un Portugal qui vous a séduit?
Alors moi déjà, je vais inscrire ce match dans un contexte plus global. Je crois que c'est la plus belle journée depuis le début de la Coupe du Monde.
Ah, en termes de rencontre,
en journée. Non, en journée complète. Ouais, ouais. Ça a commencé avec un Cameroun-Serbie dont on n'attendait pas énormément et on a vu un très bon match.
On n'a pas vu du grand football, mais on a
dans
vu...
Dans le dénouement, match, ouais, c'est génial. Remercie,
oui, mais attention aussi, la Coupe du Monde, c'est ça aussi. C'est parfois pas des matchs d'un très haut niveau tactique ou technique, mais il y a de l'émotion, des renversements de situation et c'est très agréable parce que souvent, tu regardes des matchs où tu n'es pas tellement impliqué émotionnellement et tu y vas juste pour voir un spectacle et là tu vois du spectacle. Le Ghana-Corée, c'est la même, tu t'attendais vraiment pas à voir un bon match. Celui-ci a été vraiment intéressant et puis on a continué. Le Brésil, c'est un des clients sérieux de cette Coupe du Monde, donc on a toujours envie de voir et on a vu une deuxième équipe qui a enchaîné deux victoires de suite après la France et la troisième a enchaîné derrière puisque le Portugal a fait la même chose. Et pour en revenir à ta question initiale, oui, ce Portugal m'a plu. Oui, ce Portugal, parce qu'en plus, il avait un adversaire qui est toujours coriace, toujours difficile à manœuvrer, qui a toujours une base défensive, même si c'est vieillissant, même si c'est plus aussi fort qu'il y a quelques années. Mais la victoire des Portugais, je l'ai trouvée propre. Elle aurait même pu être plus importante avec un peu plus d'efficacité. Mais ça, c'est toujours le problème du Portugal, c'est que tu sais jamais... est-ce que Léao est plus efficace que João Félix? Est-ce que un tel devrait rentrer à la place d'un tel? Tu sais jamais quelle cartouche utiliser. C'est comme si t'avais plein d'armes, plein de fusils sur la table. Tu sais jamais lequel prendre pour faire mouche, quoi. Et j'ai l'impression que cette confusion-là, elle règne aussi quand ils sont sur le terrain.
Pour ajouter à ton image, c'est un peu comme une roulette russe. C'est-à-dire que des fois, tu vas tirer, mais ça fait balle à blanc. C'est-à-dire que tu peux utiliser la balle Léao, puis le Mbappé portugais.
Oh, franchement, je préfère mon image à moi, si tu permets.
D'accord.
Ouais, plus que roulette russe, là, tu vois. Ouais.
Bon, ok. Ouais.
Non, voilà.
Lionel, d'accord avec Daniel?
Oui. Pour la journée, déjà, absolument d'accord. Ensuite, pour le Portugal, moi, j'étais un petit peu, enfin, un peu non, plus qu'un peu déçu de la prestation du Portugal, tout simplement de la première mi-temps, parce que je trouvais que face à un bloc qui était quand même difficile, Daniel a raison, difficile à bouger tout ça, j'ai trouvé ces Portugais apathiques, il n'y avait pas de vitesse, il n'y avait pas de, ils faisaient rien, tu vois, c'était les ballons étaient trop arrêtés, les courses, bah il y en avait pas beaucoup, ils ne se trouvaient pas en mouvement, il y a eu deux actions dangereuses et notamment la première, c'est sur une relance de Pépé tout de suite dans l'axe comme ça qui va trouver João Félix, je crois, et je crois que ça a été la seule occasion véritablement dangereuse pour les Portugais en première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, je reste persuadé que Fernando Santos les a secoués un peu, leur a dit de mettre du rythme, de faire vivre ce ballon, de trouver des joueurs lancés, parce que dès le début de la deuxième mi-temps, on a vu un autre Portugal et comme par hasard, ils ont été récompensés. Et ben voilà, pour moi, à deux visages, ce Portugal à deux visages, mais j'ai préféré ce Portugal en deuxième mi-temps parce que c'était pas facile. Ils sont pas faciles à jouer, les Uruguayens. Ils ont truqué, ils ont mis des coups, et ils sont pas énervés. Parce qu'ils en ont pris des coups, hein. Ils en ont ramassé un paquet, mais jamais, ils sont jamais sortis du match et tout. Ils ont gardé la tête froide. Moi, voilà, un match maîtrisé du Portugal.
Bah, c'est un match plein, hein, parce qu'il y a eu, beaucoup d'occasions d'un côté et de l'autre. On peut compter 15-20 occasions, des tirs, il y avait du mouvement, c'était quand même un match très intéressant.
Hein, en deuxième mi-temps, je trouve.
Que tu veuilles équilibrer, mais moi je parlais de l'ensemble. Sur l'ensemble, t'as raison, on peut séparer première mi-temps, deuxième mi-temps si t'as envie de le faire, mais moi je suis plus sur une impression générale où j'ai trouvé, enfin, tu vois, Portugal-Uruguay, c'est un gros match de Coupe du Monde, tu vois, c'est comme un.
Trois grosses occasions de l'Uruguay.
La plupart du temps, et dans les Coupes du Monde en phase de poule, c'est un gros contre un petit ou un gros contre un moyen. Là, on peut considérer que ce sont deux grosses équipes de Coupe du Monde. C'est en dessous de l'Espagne-Allemagne d'hier. Mais bon, ça reste quand même deux très belles sélections. Et ça donne un match qui est très intéressant en finale et que le Portugal gagne proprement 2-0.
Nico, est-ce que tu as vu un bon Portugal, toi aussi?
Déjà, il faut souligner la chose qui est quand même la plus importante, c'est que le Portugal est déjà qualifié. Ce qui est quand même très rare que le Portugal se qualifie dans un tournoi majeur aussitôt, c'est-à-dire après deux matchs. Hein. Ils ont souvent l'habitude de mal commencer. Et d'être toujours au pied du mur et de
s'arracher. C'est presque inquiétant, ça, Nico.
Disons que c'est très inhabituel. C'est vrai que 2016 avait été la carrière.
Ça doit te troubler, ça. Hein.
Moi, surtout, je me souviens de 2016 où le règlement change. Oui. Les troisièmes passes, ils se qualifient avec trois nuls et ils vont au bout. Donc, effectivement. Oui. Après, il y a des choses qui m'ont plu. Par exemple, moi, qu'un Bruno Fernandez prenne enfin de l'épaisseur.
On allait y venir. Tu fais bien de le dire.
Il y a ça. Autre joueur qui a fait son retour, ça faisait quasiment deux mois qu'il n'avait pas joué. Il a fait un match incroyable, c'est Pep. Pep qui est devenu ce soir le joueur le plus âgé de l'histoire du Portugal en phase finale de Coupe du Monde. Il y en a beaucoup qui l'ont.
Et t'en as un autre aussi, Diogo Costa. Il est hyper important.
J'arrive. Pour moi, il y en a un autre qui est très important, mais qui brille pas parce qu'il est moins spectaculaire qu'il l'est en club, mais qui pour moi a fait un match énormissime. C'est Bernardo Silva. Il faut qu'on arrête de croire que le Bernardo Silva qui joue en équipe du Portugal, c'est celui qu'on voit à City. C'est pas un joueur qui va être spectaculaire.
Ça, on a remarqué que c'était pas le même. Mais c'est vrai que ça perturbe les yeux parce que il est tellement étincelant avec City dans le collectif huilé que là. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est sûr qu'il fait un gros match.
Il a dit un truc. Il s'est auto-analysé en conf de presse hier. Il a dit une chose. C'est-à-dire, cette critique-là, elle lui a été faite. En gros, pourquoi tu brilles pas autant avec le Portugal qu'avec City? Pourquoi tu n'as pas la même épée? Lui, il dit, mais très intelligemment en plus, autocritique, il dit, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Je n'ai pas été aussi spectaculaire contre le Ghana que je l'avais été lors du match précédent, l'amical face au Nigeria. Mais moi, je fais ce que le jeu me demande. C'est-à-dire, il est là, il fait des compensations, il bouge des trous. Il court énormément, il a un volume de jeu qui est important. Et surtout, n'oubliez pas un truc, c'est qu'il joue dans ce milieu à 3. C'est pas du tout le même positionnement. Il est quasiment 8. Bernardo, c'est pas le genre de débordement qui va mettre des passes D. Il est là, il compense. Il est quasiment box-to-box, Bernardo. Et moi, aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé spectaculaire, mais je l'ai trouvé incroyable, Bernardo. Et puis, il y a Diogo Costa, qui avait eu cette fameuse bourde. Il a failli en faire une, d'ailleurs, aussi, sur un dégagement. Mais si le Portugal, il y a 0-0 à la mi-temps, les gars, pour moi, il y a un parallèle entre la première mi-temps contre le Ghana et celle de ce soir. C'est-à-dire qu'ils ont le ballon, il y a une grosse maîtrise technique, et puis il y a les fameux trous d'air qu'avait déploré Fernando Santos qu'on a retrouvé, mais les deux plus grosses occasions en première période, elles sont pour Bettencourt. Hein. Merci Diogo Costa, c'est lui qui les sauve, les Portugais. Donc il y a quand même des choses positives. Après moi, en moins positif, bah c'est Santos qui tarde à faire ses remplacements. Pour moi, il est très osé quand il enlève un milieu def et qui fait rentrer Rafael Leão à la place. Il enlève Neves qui est averti. Oui,
alors là, quand il a fait ça, j'ai
moi Neves, pour moi, il est pas au niveau. Mais il a pas.
Non, mais ce changement.
Non, mais il a fait un offensif.
C'est pour ça. Quand il a fait ça, devant la télé, je sais pas, je comprenais pas. Qu'est-ce qui lui arrive?
On lui reproche souvent d'être conservateur, notamment dans ses choix, que ce soit dans ses remplacements.
Quelle surprise quand même.
Ouais, mais par contre, il y a eu un gros déséquilibre derrière. Et la rentrée de Pelling, que beaucoup voulaient titulaire parce qu'il a un vrai gros volume de jeu, une grosse présence physique, beaucoup le voulaient titulaire dans ce match-là. Elle a fait du bien, mine de rien. Et puis moi, il y en a un autre.
À la place de Carvalho, c'est ça?
Ouais. Et pour moi, il y en a un autre dont il faut qu'on parle, qui s'est attribué un but qui lui a finalement pas été donné, mais c'est Cristiano Ronaldo. Comme face au Ghana, il fait une bonne première période, mais deuxième période, il n'y a pas un truc qu'il a réussi, qui a fonctionné. Tout ce qu'il a tenté en deuxième période. Alors pour moi, il continue d'accaparer l'attention des adversaires. Mais il y a force est de constater que sur 90 minutes, peut-être parce qu'il a moins de temps de jeu, peut-être parce qu'il se fait vieux, j'en sais rien. Mais le fait est que plus les minutes avancent et moins il est performant, Cristiano Ronaldo.
Ça c'est sûr. Et je maintiens. Je sais pas jusqu'où pourra aller le Portugal et est-ce que ce sera avec lui, sans lui, des matchs entiers, 60 minutes, 70 minutes. J'ai le sentiment que Léo sur un côté, Jean-Félix en pointe, j'ai envie de croire que ce Portugal serait plus performant, mais j'ose pas le dire parce que Cristiano Ronaldo a le profil pour faire taire n'importe qui en mettant un but dans un match couperet qui va faire la diff. Bon, le jeu collectif, si on veut le mettre en avant et si on veut mettre à profit les qualités importante qu'à cette équipe, je suis convaincu que Léo, Jean-Félix et je sais pas qui tu veux mettre avec eux devant, ça aurait vraiment beaucoup d'allure. Vraiment, je suis sûr que techniquement cette équipe serait encore au-dessus.
Après Nico, le hockey, il se donne, enfin il célèbre le but comme si c'était lui qui l'avait marqué tout ça, mais il est très 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 influent. S'il ne vient pas là, jamais il y a le but. Le gardien l'a prend tout
bien
seul.
Bien sûr, ça c'est ça, c'est un autre. Raison.
Et même contre le Ghana, il va chercher le penalty, il marque un but.
Bien sûr, il est très influent quand même.
Mais,
hein,
mais
et comme
moins,
disait Daniel,
des minutes, c'est ce que je te dis. Première période, il est. Et le fait est qu'en deuxième période,
il prend de l'âge.
Non, je suis d'accord.
Le pauvre.
D'ailleurs, il sort, ce qui est pas le cas. Bon, il restait quelques minutes à jouer, mais enfin, sur le monde, on se dit bon, pour peut toujours garder un ballon devant. Il a quand même un peu d'expérience, le gars.
Mais après, forcément, c'est rassurant. Hein. Moi, je trouve pas que le Portugal. Alors, c'est vrai qu'ils sont un peu chiants parfois à avoir joué, mais il y a un truc qu'on peut pas leur enlever.
Non, mais là, fallait être deux pour être chiant.
Ce soir,
non,
ça
mais
va
y a une
plus,
vraie
moi.
Maîtrise technique. Moi, je trouve qu'il y a une vraie maîtrise collective. Il y a un truc qui commence quand même à se dégager de cette équipe. Après, Santos avait expliqué après le match contre le Ghana, il y avait certainement aussi la nervosité du premier match en Coupe du Monde. Il a aussi dit un truc que moi j'ai trouvé intéressant et qu'on a commencé à avoir un peu plus dans ce match-là. La question lui a été posée parce qu'il a parlé de liberté totale, notamment en phase de possession. Et ça s'est pas forcément vu face au Ghana, c'est-à-dire ils ont beaucoup eu le ballon en première période, mais ils savaient finalement pas trop quoi en faire face à un bloc bas, ce qui a été le cas face à l'Uruguay. Aujourd'hui, on a un peu plus vu ça tout de même. C'est-à-dire, on a vu une équipe qui était un peu plus libérée, des joueurs offensifs qui tentaient des choses. Je pense à Bruno Fernandes, à Rafael Leão.
Pas en première mi-temps, Nico.
C'est ce que je te dis. Ouais,
parce que première mi-temps, justement, mais c'est un petit peu le revers de la médaille. Quand tu dis, c'est ça. Quand tu dis liberté, quand tu dis à tes joueurs liberté totale en phase offensive, et ben quelque part les mecs ils sont obligés de regarder et d'improviser. Moi la liberté totale, parce que là, et c'est pour ça que le ballon et les actions étaient souvent arrêtés, c'est-à-dire que t'as pas ces schémas de jeu, ces circuits préférentiels où tu vas les yeux fermés, tu sais que t'as le ballon là, l'autre il part dans le dos, nanana. Et donc en première mi-temps, j'ai trouvé un jeu trop arrêté, trop stéréotypé pour pouvoir faire le tour justement de cette ligne de 5 qui quadrillait bien le terrain là, dans le sens de la largeur surtout. Donc ils ont eu du mal à faire vivre ce ballon. Et en deuxième mi-temps, là ça a complètement changé. Dès que le ballon a vécu, là j'étais content. Mais comme tu disais, pour avoir un match hyper beau, hyper entraînant et tout ça, il faut quand même être deux. Et les Uruguayens, là moi je suis déçu, c'est qu'en première mi-temps ils ont pratiquement rien fait. Bon ok, ils ont fait deux contre-attaques,
basta,
oui, mais
ça c'est leur habitude, Lionel. Ça c'est leur habitude, ouais. Les Uruguayens, mais tu vas pas t'attendre à ce qu'ils prennent le jeu à leur compte.
Des fois, ils jouent un peu plus, ils y vont un peu plus dès le départ. mais
c'est
là,
pas leur culture, pas dès le départ.
Mais on
c'est
peut pas souvent, en vouloir. Ce que je veux dire, Daniel, c'est qu'on
ils le font jamais, Lionel. Ils le font jamais.
On,
après, quand
on
ils
peut pas en vouloir
sur la seconde
au
période, ils ont été très entreprenants, beaucoup plus. Ils se sont créés des occasions, ils ont frappé le poteau. Voilà. Donc ils ont cette capacité, mais malheureusement, ils ne veulent pas être les premiers. Ils ne veulent pas.
Bah, on va voir ce qu'ils vont faire contre le Ghana.
Ils soient dos au mur contre le Ghana, c'est sûr qu'ils vont y aller parce que de toute façon, ils sont obligés de gagner pour
ça. On va parler de l'Uruguay dans quelques minutes, mais finissons sur le Portugal d'abord. Fabrice est là au 32-16. Salut Fabrice.
Bonsoir messieurs.
Fabrice,
salut Fabrice.
Fabrice,
c'est quoi en portugais? Ça existe en portugais?
Fabrice.
Fabrice, c'est Fabrice, il n'y a pas de problème.
Non, c'est Fabrice. Ouais,
Fabrice. Pas de problème.
Lionel, fais pas l'accent portugais, ça passe pas.
On t'écoute, caralho.
Fabrice, il est content, il va bien dormir parce qu'il a vu un Portugal avec un tout autre visage que le Portugal du Ghana. Une équipe qui a maîtrisé son sujet, qui a bien joué, qui a joué surtout, qui a essayé d'imposer son jeu et qui n'a pas trop subi, si ce n'est, et c'est là ma plus grande crainte, quand on mène au score. Parce que contre le Ghana, on mène 1-0, on recule, on prend un pion. Et là, on mène 1-0, et puis pareil. Santos, Nico l'a bien dit, notre sélectionneur, il a peur, il est frileux, il tarde à faire des remplacements, et c'est lui qui me fait le plus peur aujourd'hui. C'est pas les joueurs qui sont sur le terrain, parce qu'on a des jeunes extraordinaires. 1-0-0, effectivement, vous l'avez souligné, Diego Costa nous sauve, il tient la baraque. Étant sociaux du FC Porto, j'ai une affection particulière pour le gamin, mais il a que 23 ans, le gardien. Et il le prouve tout au long de la saison, il le prouve encore ce soir.
Bah d'ailleurs ça, le choix, parce
mais
que
ça,
je me rappelle
c'est
Nico,
la bonne, le, bah ouais, vas-y. C'est le bon choix de Santos.
Il y avait eu de l'étonnement de sortir Rui Patricio. Là,
oui, finalement, il le fait au moment des barrages.
Il a prouvé.
Finalement, bravo.
Il le prouve tous les week-ends en championnat et ça fait maintenant plusieurs mois qu'il s'est imposé à la tête de la sélection et il l'a prouvé sur les différents matchs qu'il a pu faire en sélection. Alors là, on n'a que en tête sa connerie de fin de match contre le Ghana. Bah, ça arrive, mais c'est sans conséquence, tant mieux. Et aujourd'hui, il montre le talent. Il n'a pas eu un boulot extraordinaire à faire, mais sur les quelques interventions qu'il a eues, il les a fait proprement, il est présent.
C'est d'autant plus dur.
Bien sûr, il faut être concentré sur 88, tu le sais mieux que personne. Enfin, voilà, à 23 ans, masterclass, bravo.
Je suis d'accord.
Rafa Guerrero, pas facile, parce que Nuno Mendes, il est énorme.
Nuno Mendes, peut-être que vous l'avez perdu pour le reste de la Coupe.
Je crois que c'est foutu pour lui.
C'est cramé.
Il sort. T'as les infos, Nico?
Non, alors pour l'instant, on attend que les infos viennent. Mais bon, il sort en larmes. Ça sent pas bon. Surtout qu'il revenait de blessure. Il était annoncé titulaire dans aucune compo probable. Parce que je crois qu'il a repris l'entraînement hier seulement. Et lui-même devait le savoir. Il sort en larmes.
Je pense qu'ils l'ont relancé trop vite.
Ouais, certainement.
C'était un risque à prendre. Ils l'ont pris. Il fait une première mi-temps extraordinaire. Je le regrette. Je suis triste. Et
surtout qu'il faisait un bon match.
Mais quelque part, Guerrero, il est rentré.
Moi, Guerrero, il y en a beaucoup.
Mais aujourd'hui, il fait son taf.
Guerrero, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de supporters du Portugal qui lui sont tombés dessus après le match contre le Ghana, parce que sur l'un des buts, il est mal placé. Mais moi, je trouve qu'les gens sont très sévères avec certains joueurs du Portugal. Je pense à Danilo aussi, parce que le ballon lui passe entre les jambes sur le but. Mais Danilo, il est très important. Je vous rappelle que Danilo, il est blessé aussi pour ce match-là, et que Mindo, c'était devenu un joueur aussi très important. Alors, Pep revient en bon moment, il fait son match, pourvu que pour les Portugais que ça tienne comme ça. Mais il y a certains joueurs comme ça, William Carvalho par exemple, qui avait fait une bonne rentrée, moi je trouve, face au Ghana. Dès qu'il était annoncé dans la compo probable, tout le monde lui était tombé dessus avant même qu'il joue. Moi, j'ai pas trouvé qu'il était catastrophique aujourd'hui. Le milieu de terrain a pas été bon, notamment en première période. Mais voilà.
Non, mais là, c'était une victoire collective, Nico, parce que tous les entrants, franchement, ils ont fait le match, ils ont apporté un plus à chaque fois. Non, attention, l'effectif, c'est pas n'importe quoi, l'effectif portugais.
On a une super génération, on a toujours eu depuis beaucoup d'années, on a souvent.
C'est probablement la plus belle de votre histoire.
Je pense qu'on a une des plus belles générations qu'on ait jamais eues au Portugal. Après, il y a effectivement cette passation, Ronaldo par Ronaldo. Il sort, c'est bien. Santos le fait sortir parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, physiquement, il peut pas faire 90 minutes. Plus ça va, plus il sort tôt. Et puis, il rechigne pas.
Il n'a rien dit, exactement.
Et il encourage. Et quand il est sur le bord du terrain, on retrouve le Ronaldo de sa blessure à l'Euro 2016. Il est là, il encourage, il essaye. Donc, c'est bien. Il y a une passation qui se fait. Le petit Gonçalo Ramos qui est rentré, il va prouver. Et cette qualification va nous permettre de lancer d'autres jeunes, je pense, sur le troisième match. J'aimerais voir un Viting au milieu de terrain.
Ouais.
Qui a du talent. J'aimerais voir João Mário, qui fait une super saison avec le Benfica. C'est des joueurs qui peuvent apporter également. Et c'est bien, c'est une super victoire collective.
Après, ils peuvent pas tous jouer.
Est-ce que tu vas pas les voir au troisième match?
J'espère qu'il va les mettre au troisième match. J'espère qu'il va leur donner du temps de jeu. Et j'espère qu'ils vont faire d'ailleurs un grand match pour aller chercher une troisième victoire et prouver aux sélectionneurs qu'ils ont leur place dans ce groupe et que potentiellement, ils peuvent prétendre à une place en huitième. Parce que quand on mène 1-0 ou qu'on est frileux à 1-1 contre le Ghana et que Santos nous fait sortir des milieux offensifs pour mettre des milieux défensifs, moi j'aime pas, il est frileux. Alors que
ce soir, c'est l'inverse.
Aujourd'hui, il n'a pas été comme ça. Hein.
Un joueur mal qui est capable de prendre le ballon, ils jouent ensemble au milieu de terrain. On a une super équipe, les gars, prenez le jeu à votre compte, jouez, faites-nous rêver. On a une super sélection et je suis
content. L'objectif d'ailleurs qui est fixé.
Dans mon souvenir, qu'on se qualifie.
C'est de gagner, qu'est-ce que tu
fais?
Gagner la Coupe du Monde, c'est ça l'objectif fixé.
Il joue un petit peu, c'est ce qu'on disait l'autre jour, mais il joue un peu sur les mots. C'est-à-dire, lui, se considère pas comme un favori parce qu'il est rarement cité parmi les favoris, Fernando Santos. Mais il dit qu'il est candidat et d'ailleurs, il l'a dit, hein, en conf de presse avant le Mondial. Il l'a redit là dernièrement, la question lui avait été reposée. Il dit, mais pourquoi nous, on n'aurait pas le droit d'y aller et de prétendre et d'être un candidat à la victoire finale? Si on y va, c'est pour gagner. Donc,
t'as trois équipes, hein. De qualifier ce soir, t'as la France, t'as le Brésil et t'as le Portugal. Donc, c'est pas n'importe quoi, t'es dans la cour des grands.
Je pense que tu peux tranquillement ajouter l'Espagne, ça va aller, Lionel.
Non, mais ils sont pas officiellement comme, les deux autres, les trois autres.
Si tu n'affiches pas une ambition haute, tu n'y arriveras pas. Sois ambitieux, essaye, tu as la sélection pour, prouve-le, vas-y, défonce-toi. On peut, pourquoi pas. Ils font deux bons matchs, surtout celui-ci. J'ose espérer que le troisième sera dans la continuité de ce que l'on a vu ce soir. J'ose espérer qu'on verra des jeunes qui étaient sur le banc de touche et qui vont montrer que eux aussi ont leur place dans ce groupe portugais et peut-être montrer que bah voilà, pourquoi pas, attention, le Portugal cette année, bah ils prennent le jeu à leur compte, ils jouent et voilà. On peut le faire, c'est possible.
Merci Fabrice.
Je suis très content de ce que j'ai vu ce soir. Merci à vous les gars.
Ciao Fabrice.
Salut.
Bonne
Fabrice.
Soirée.
Bonne soirée.
Nico, est-ce qu'il y a un joueur qu'on n'a pas cité que tu voulais évoquer
Non, alors il y a juste une petite info. C'est que pour le troisième match, donc le Portugal est déjà qualifié, un nul suffira pour terminer premier du groupe, sachant que la Corée du Sud va jouer une finale. En plus, alors ça va être un match dont on va beaucoup parler au Portugal, déjà parce qu'il y avait le souvenir d'il y a 20 ans, la Coupe du Monde en Asie, où le Portugal avait une finale de groupe face à la Corée du Sud. Un nul suffisait aux Portugais pour se qualifier, et finalement ils perdent, ils finissent le match à 9. Bah, on avait fait un podcast Joga d'ailleurs là-dessus. Et surtout, c'est une sélection qui est entraînée par Paulo Bento, ancien sélectionneur du Portugal, qui était parti dans des circonstances dramatiques.
Bah, il s'est fait expulser, là, donc il sera peut-être même pas sur le banc.
Bon, ouais, mais c'est quand même lui le sélectionneur. Et puis il était parti en bisbille avec Cristiano Ronaldo à l'époque. Enfin, ça va être un match qui va être quand même assez lourd en émotion. Après, en termes des joueurs, non. Moi, je suis assez d'accord avec Lionel quand il parle de performance collective. Il y a des joueurs qui avaient été un peu en dedans, notamment face au Ghana. Je pense à Cancelo qui a fait son match aujourd'hui. Certains parlaient de William Carvalho, où ils n'avaient pas aimé non plus, de Diogo Costa et même de Cristiano Ronaldo. Voilà. Juste pour finir sur Ronaldo, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a des messages qui tombent sur le direct studio. La joie. Le Ronaldo, c'est comme tu disais toi tout à l'heure, Daniel, c'est que pour moi, c'est une situation et un cas qui est ingérable. C'est-à-dire que Ronaldo, tu sais qu'il peut marquer à n'importe quel moment, parce que c'est Ronaldo, qui pèse sur toutes les défenses, même à bientôt 40 ans, et que même quand il est moins bien, et ça Santos se le dit, je sais qu'il peut faire, il peut me faire un truc. Aller me chercher un penalty, oui. Faire un appel, que les mecs ont l'attention portée sur lui, et ça libère des espaces. C'est insoluble.
Cristiano Ronaldo. Même marquer un but quand il touche pas le ballon.
Ouais, ça c'est fou aussi. Tiens, Bruno Fernandez vient de dire, j'ai fêté le but comme si c'était Ronaldo qui l'avait marqué. Voilà, c'est assez mignon. Voilà, on a dit qu'ils s'entendaient pas les deux, finalement ça a l'air d'aller.
Et lui, il fait un doublé, hein, mine de rien. Hein.
Ouais, alors lui, hein, qu'est-ce qu'il s'est fait tailler? Mais moi, le premier, hein, d'ailleurs, hein, je vous l'ai souvent dit dans l'after. Hein,
mais en même temps, tu le taillais à juste titre parce que t'avais toujours l'impression qu'en équipe nationale,
et même Julien Laurent le disait,
il était toujours timoré, il traînait toujours cette réputation d'être moins bon dans les matchs importants. Bref, d'un garçon un peu timide, pas sûr de lui, pas encore complètement en confiance, affirmé, quoi. Bon ben voilà, il fait un match de patron, il est passé tout près d'un triplé.
C'est ça.
On est là un joueur qui est capable de peut-être dominer son sujet en sélection et peut-être même d'être le patron de cette sélection.
Ouais ouais. Est-ce qu'il s'est pas donné un autre rôle maintenant avec cette nouvelle génération qui arrive, lui qui prend de la bouteille et un peu tu vois la Rabiot chez nous.
Je me demande même.
Ouais, c'est.
C'est de la supputation, hein, c'est de la fiction, mais encore que je me demande aussi si moi le fait que Ronaldo soit pas parti de Manchester United, je sais pas, psychologiquement même inconsciemment, ça l'a pas encore plus libéré. C'est-à-dire que il était l'un des patrons de Manchester United, on en avait parlé avec Kevin Diaz et avec Julien Laurens avant que Ronaldo arrive, c'est-à-dire que c'était un joueur hyper important, il avait le brassard, etc. Ronaldo est arrivé, il était très content qu'il vienne à ce moment-là, hein, il l'avait dit, assumé publiquement, il l'a redit encore dernièrement. Moi j'étais fan, Ronaldo était l'une de mes idoles quand j'étais jeune. Est-ce que là, le fait de savoir qu'à United, finalement, il redevient un patron qu'il était, je ne sais pas si ça joue pas aussi psychologiquement.
Je pense que tu as raison. C'est parce que tu as des joueurs comme ça. Hein.
Juste un petit message là sur le hashtag RMC Live de Etz qui me dit arrêtez d'appeler Léao le Mbappé portugais. Je précise que c'est pas de moi, c'est de Campos.
Campos,
c'est, ouais. C'est lui, Campos, quand à l'époque il était à Lille, qui avait dit vous verrez, celui-là c'est le Mbappé portugais.
Il n'a pas vraiment dit ça. Il a dit il a des caractéristiques qui ressemblent un peu à Kylian Mbappé, la vitesse notamment, la percussion. Mais c'est vrai
un
que.
Un petit peu.
Ouais. Oui, un petit peu.
Bon, Nico, à tout à l'heure.
Ciao, minuit, hein. Minuit, une heure, on sera là avec Thibaut hein, pour la
ça se passe bien, franchement. Tous les soirs
alors, franchement. C'est un vrai kiff. Bon, on dort.
Et moi, je les entends. Tu les entends pas, Gilbert?
On l'a même appelé le jour. Il est rentré en bagnole, Lionel, pour pas qu'il s'endorme.
Donc, ouais, c'est vrai, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit tu t'endors pas, fais pas le con volant.
Ouais, faites gaffe à Lionel quand même.
Oui, justement, on voulait pas qu'il s'endorme.
Non, mais je les écoute, je te promets, je me régale. Ils me font pisser de rire. D'ailleurs, faudrait que tu nettoies ma caisse.
Non,
mais ils sont très marrants. Ils sont très marrants.
Ils sont la base de voiture aussi.
Et pertinents. Ah, bah, il est portugais.
Non, alors ça, bravo Lionel. Bravo.
Tu le sais, tu le sais.
Non, mais parce que je veux bien qu'on nettoie les baraques, mais les bagnoles, je crois pas, non.
À tout à l'heure, donc.
Merci
Nico. Ciao. Dans un instant, on dit un mot de l'Uruguay et puis on enchaînera avec le Brésil. Ensuite, il y aura l'équipe de France, il y aura le Ghana, il y aura le Cameroun et tout le reste de l'actu du jour, évidemment, jusqu'à minuit dans l'after. À tout de suite sur RMC.
RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Il est 22h33 en France, minuit 33 ici au Qatar, où l'on continue l'after jusqu'au bout de la nuit, évidemment, jusqu'à 1h, heure française, jusqu'à 3h. Alors, Qatari, Daniel Riolo est là, Lionel Charbonnier est là. On a parlé longuement du Portugal, un mot de l'Uruguay quand même. Ça sent quand même la toute fin du prime. Hein. Ouais. C'est l'atterrissage du prime en fait.
Bah, vous voyez ce que je veux dire? Il y a lui, il y a Suarez, et. Le passage de génération, il pourrait presque se faire vite et s'accélérer là, parce que je trouve que les jeunes derrière, c'est pas mal du tout, quoi. Parce que si tu mets
Darwin Núñez, évidemment.
Même si
ce soir, il a pas fait un match énorme.
Ouais, mais il faut.
J'ai pas trouvé top ce soir.
Il faut le mettre lui.
Valverde, c'est le nouvel.
Tu le mets lui en neuf. Il y a Valverde. Comment s'appelle Pellistri là, qui est rentré, qui a bien allumé le côté aussi. Enfin, ils en ont des joueurs.
Facundo Pellistri.
Voilà. Il faudrait que les deux vieux comprennent, parce que ça se voit.
Enfin, lesquels deux vieux? Il y en a d'autres, des vieux. Oui, que derrière, parlais, t'as aussi des vieux.
Je parlais surtout de ceux de devant.
Parce que Coates vieux, Godin vieux, Jiménez vieux.
Non, mais je parlais de Cavani Suarez. Parce que Cavani est un joueur que j'ai absolument adoré, mais on voit bien que c'est très, très, très compliqué maintenant. C'est plus visible chez Suarez, parce que là, t'as l'impression qu'il est en plein Asado et Vino permanent. Mais, Cavani, ça fait de la peine aussi. Hein. Ça bouge pas des masses.
Mais je trouve qu'avec Núñez, ça va pas.
Débordante. Mais non, mais s'il est fait jouer, parce qu'il faut, faire jouer les vedettes et les jeunes, il mélange, alors qu'en fait, il devrait clarifier la situation. Et il a l'opportunité de le faire, parce qu'il reste un match très, très important. S'il bat le Ghana, il se qualifie. Il faudrait le faire avec les jeunes. Il faudrait qu'il mette Cavani
sur le banc. Ouais, voilà. Le problème, c'est qu'il remplace Cavani pour Suarez, et donc c'est un peu le souci.
Mais non,
Núñez, que Núñez y soit.
C'est Darwin Núñez devant, et puis tu mets Facundo. Et
tu mets de la vitesse à côté de Núñez.
Bien sûr. Même si Valverde joue plus au milieu, mais bon.
J'ai trouvé Bettencourt très fort.
Mais
meilleur
Uruguayen.
Valverde, Bettencourt, c'est des bons joueurs. Vecino, même si ce soir il est moins bien, c'est quand même des bons joueurs. Il y a une bonne base. Et avec cette bonne base, tu dois faire mieux que ça. Tu dois battre le Ghana.
Alors, ce qui est assez terrible, c'est cette revanche Ghana-Uruguay, dernier match. C'est drôle. Parce que là, soit les Uruguayens vont le refaire.
Je sais pas si c'est drôle, mais.
Soit les Ghanéens peuvent prendre leur revanche et les foutre dehors. À voir. Et si jamais Suarez
devait
faire une
main. Attention. Ouais, c'est ça.
Bon, là, il n'y a plus Azamo Adjian hein, pour le penalty.
Non, mais il va falloir qu'il montre un autre visage chez les Uruguayens contre le Ghana.
Mine de rien, c'en est un aussi, celui-là.
Bah oui, parce que le Ghana n'est pas encore sur 10.
C'est une sorte de 16e de finale.
Exactement. Qui sera à suivre sur RMC, évidemment. Bon, voilà pour l'Uruguay, hein, je pense qu'on a fait le tour. On a découvert le gardien Rocher, qui, comme l'a dit Lionel Teller, n'est pas un mur.
Presque.
Vu qu'il a quand même pris deux buts.
Et il est de la famille Suchard ?
Non, mais il aura pu
être
vivant à Brest.
D'accord.
La famille suggère.
Tu l'avais travaillé, celle-là, Daniel?
Non, pas du tout. Chez moi, ça tombe tout seul.
C'est son côté gourmand.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
On passe au Brésil, les gars?
Allez.
Allez, on y va. Lionel, qu'est-ce que tu as pensé des Brésiliens aujourd'hui? Un peu plus, comment dirais-je, poussif que contre la Serbie.
Ouais, mais la Suisse, c'est chiant à jouer. Ils ont été, franchement, ces Suisses, ça a tout le temps été une équipe difficile à manœuvrer. J'ai trouvé beaucoup de solidarité côté Suisse. Ils n'ont pas proposé, ils ont pratiquement rien proposé offensivement. Ah
ouais, le minimum du minimum. Hein.
Ouais. Mais donc c'est compliqué à jouer ces équipes-là. Mais écoute, moi je trouve qu'ils ont quand même construit leur victoire. Tu vois quand même que ça manque d'un mec capable de faire la différence individuellement comme pouvait le faire pas mal de Brésiliens. Là t'as pas Neymar, et ben tu t'en sors en plus avec le collectif. Même si Vinicius a beaucoup progressé, je trouve qu'il lui manque quand même cette progression. D'ailleurs, je crois qu'il a un face-à-face qui loupe à un moment donné et qui peut te coûter cher. Mais bon, le but qu'il amène, par contre, dans la finition, dans sa construction et tout, ce but de Casemiro est fantastique. Il est très beau. C'est Vinicius qui donne en profondeur, qui remet tout de suite. Je sais plus quel Brésilien remet sur Casemiro qui marque un but incroyable, même si elle est déviée. C'est un très joli but. Mais et puis derrière, moi, cette équipe est quand même belle parce que il y a des joueurs qui rentrent et c'est vraiment une grosse équipe parce que tous ceux qui rentrent, franchement, je les ai trouvés très bons. Ils ont tous apporté, ils ont rehaussé le niveau du Brésil qui n'a pas lâché même 1-0. Ils ont continué d'attaquer. Donc attention, cette équipe est vraiment bon. Bien sûr, c'était les favoris, mais des fois, on les voit trop beaux. Moi, elle m'impressionne. Je suis pas étonné. Le groupe était pas facile et je suis pas étonné de les voir déjà qualifiés.
Alors moi j'aimerais quand même qu'on se concentre un peu sur Casemiro. J'étais au match contre la Serbie, très franchement, alors évidemment tout le monde parle de Neymar, le beau but de Richarlison, mais le meilleur joueur du Brésil c'était Casemiro. Incroyable, le mec fait tout, il récupère, il est toujours debout, pas de faute, nickel. Et puis là ce soir, il est bon, il marque, c'est le meilleur Brésilien depuis le début de la compète.
Sauf que Casemiro aujourd'hui, tu le vois tout simplement parce qu'il y a pas Neymar. Il est dans quelle position quand il marque?
Non, mais c'est le problème du Brésil, c'est que t'es toujours ébloui par les attaquants, les gestes techniques, les trucs, tu vois. Souvent,
T'as des joueurs intelligents quand même. Hein.
Je crois que je sais pas si tu gagnes la Coupe du Monde si tu continues à dire match après match que c'est Casemiro le meilleur joueur. Ça doit être un joueur d'équilibre. À un moment, tu gagneras la Coupe du Monde quand les matchs deviendront de plus en plus durs avec les joueurs offensifs, avec ceux qui feront la diff dans le premier match. C'est Richarlison et c'est un attaquant. C'est lui qui a été mis en avant. Là, c'était vraiment, comme a dit Lionel, il a raison, c'était un match un peu pénible pour les Brésiliens qui ont quand même réussi à mettre du mouvement. Leur transmission était assez intéressante. Ils essayent d'aller vite dans les passes. C'était pas aussi fluide, peut-être parce que Neymar était pas là, mais enfin bon, ça a quand même essayé toujours de créer, toujours de jouer, à la différence des Suisses qui ont plutôt attendu.
Déçu par Paqueta, moi. Je sais pas ce que t'en penses, Daniel, c'est Paqueta, celui que je trouve en dessous, moi.
Il est monté d'un cran pour être, en fait, le remplaçant de Neymar,
mais pas
aussi fort que Neymar, voilà. Et puis bon, après, il est pas aidé non plus, parce que pour compenser, on a mis quasiment un milieu défensif de plus. Donc c'était pas brillantissime, mais franchement il y a rien à redire sur leur victoire. Hein. Ils continuent, 2 matchs de victoire, ils sont déjà qualifiés. La grande question, ça va être vraiment de savoir s'ils récupèrent Neymar et dans quel état, parce que je prendrais pas le risque, moi, là, aujourd'hui, avec justement le match que j'ai vu face à une équipe difficile à bouger comme ça. Ok, tu gagnes 1-0 au niveau au-dessus. Je sais pas si le Brésil fait encore partie des favoris sans Neymar. Hein. Franchement, tu les vois gagner la Coupe du Monde avec cette équipe-là? Je sais pas.
Ils font partie des plus belles équipes qu'on a vues.
Ouais, non, mais ils sont solides derrière. Tout le monde travaille. Il y a une vraie solidarité.
Alors, il y a un gros changement, Daniel.
C'est
intéressant.
Vu ils peuvent être solides derrière s'ils rajoutent Militao, tout ça. Bien sûr.
Enfin, gros changement derrière.
Ça manque quand même un peu de talent, hein, quand même, globalement.
Tactiquement, ils ont beaucoup changé. Et je regardais notamment les latéraux, parce qu'ils ont souvent eu des latéraux qui n'arrêtaient pas de monter, qui dédoublaient sur les côtés et tout. Là, il y a un véritable changement, un peu à l'image de l'équipe de France sur notre côté droit, où t'as Dembélé et puis où c'était Pavard ou Koundé qui ne passaient pas. Là, les deux latéraux restent beaucoup plus derrière et tu n'as plus cet équilibre. C'est là où ils me font peur, ces Brésiliens, c'est que c'est beaucoup plus équilibré lorsqu'ils ont la balle. Avant, ils avaient la balle et t'avais un gros déséquilibre défensif. Là, c'est très en place. C'est attention, il y a.
Ils sont solides. Tu sais qu'ils ont, aujourd'hui, ils ne concèdent aucun tir.
Ah non, mais c'est très en place.
Ouais.
Et il y aura toujours ce. Mais oui, mais regardez bien.
En fait, c'est un Brésil version 94, européenne. Alors que vous voulez voir gagner la Coupe du Monde.
Non, pas forcément.
Non, mais 94.
Non, moi je veux voir gagner la France.
Comme ça, non, mais je dis s'ils gagnent, c'est dans la version dans une
ça
version 94
pas.
Où le meilleur joueur justement du Brésil avait été Dunga. Donc là, vous le remplacez par Casemiro. Et vous dites c'est avec eux et puis deux touches de talent devant, il y avait Romario Bebeto et c'est comme ça qui ouais
OK. Je trouve que les deux touches de talent, on les a pas, si t'as pas Neymar enfin avec Neymar t'en as plus qu'une, justement la touche de talent avec Romario Bebeto pour moi aujourd'hui tu les as pas.
T'as Vinicius t'as Rafinha ça va vite quand même sur les côtés.
Ouais, mais je trouve que c'est moins talentueux que Romario Bebeto.
Je viens de te dire, te dire il y a deux minutes que dans cette version-là, j'ai du mal à les voir aller au bout sans Neymar.
Ah, bon, c'est costaud. Puis voilà. Et les entrants sont vraiment Gabriel Jesus, Guimarães a été très bon aussi, j'ai trouvé. Les entrants, d'ailleurs, de toute façon, à partir du moment où ils ont fait les entrants, de la 70e à la 90e minute, les Suisses n'ont pas touché un ballon et c'est en plus ces Brésiliens ont continué de jouer à 1-0. Ils ont essayé d'enfoncer le clou. Pour moi, c'est un autre Brésil qui est en train de se construire là.
Dans un instant, la Suisse au programme. On aura un confrère journaliste suisse avec nous dans quelques secondes. Et puis Félicien sera là également au 32-16. Et je vous rappelle que tous les soirs dans l'After, grâce à Foot Corner, on vous offre des maillots de foot. Ce soir, c'est un maillot de Portugal qui est à gagner. Pour le gagner, il vous suffit d'envoyer le mot foot par SMS au 7-32-16. Foot par SMS au 7-32-16. Je vous donnerai le nom du gagnant tout à l'heure, d'ici minuit. Allez, à tout de suite avec la Suisse au programme. Et l'équipe de France, juste après 23h avec les infos du jour concernant Karim Benzema, folle rumeur qui pourrait laisser penser que Benzema pourrait revenir avant la fin du mondial si jamais il reprenait l'entraînement. Qu'en est-il ? On vous dit tout dans quelques minutes.
RMC After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Intégrale Coupe du Monde. Gilbert Brivois.
Daniel Riolo est là, Lionel Charbonnier est là également. On analyse les matchs du jour avant de parler de l'équipe de France tout à l'heure à partir de 23h et ensuite dans une page africaine avec le Ghana, le Cameroun au programme. Et puis on sortira un peu de la Coupe du Monde avant minuit pour vous expliquer ce qui se passe à la Juve ce soir où Agnelli quitte le club, lui qui était au sommet de la contestation contre l'UEFA. Décryptage tout à l'heure avant minuit. La Suisse, on en parle tout de suite avec un afterien que l'on connaît, qui est journaliste, un confrère suisse, s'appelle Valentin Schnork. Bonsoir Valentin.
Salut Gilbert, salut à tous.
Valentin qui est ici au Qatar, hein, tu bosses pour notamment la Tribune de Genève et l'excellent journal Le Matin, qu'on connaît bien, avec Daniel.
Exactement, on était au match tout à l'heure.
Bah dis-moi, zéro tir, quand même, normalement la Suisse a quand même un pouvoir potentiel offensif qu'on n'a pas vu aujourd'hui.
Bon, zéro tir, je crois que tu es un petit peu dans le fou. Il me semble qu'il y a 6 tirs, mais il y en a 4 qui sont bloqués, il y en a 2 qui sont non-cadrés.
Attends, j'ai laissé ça tous les yeux là.
Non, t'as
ouais, mais tu regardes la colonne des non-cadrés, comme on
c'est la fatigue.
Attendez, je
vais cela dit.
Il y a au moins 5 frappes.
Ouais, il y a quelques situations qui sont intéressantes, mais cela dit, le constat il est pas tout faux. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort un petit peu des déclarations qu'on a pu recueillir là ce soir entre la zone mixte, la conférence de presse. Il y a un manque. En tout cas, eux, ils parlent de courage offensif. Moi, je parlerais d'intention offensive.
J'aime bien cette expression. Eh ben, Valentin, j'aime beaucoup cette expression. Le courage offensif, c'est-à-dire à force de vouloir rassurer ses bases arrières, de se dire c'est le Brésil, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on y va vraiment et tout. Oui, j'aime bien l'idée du manque de courage offensif.
Ouais, mais le problème c'est que ça devient un petit peu la marque de fabrique de cette équipe de Suisse avec Murat Yakin comme sélectionneur. Il a un cul pas possible depuis le début de son mandat, entre les deux matchs contre l'Italie, entre les pénalties ratées, etc.
Ouais,
tu te souviens. Voilà, donc il s'en sort bien. Quand il y a le but annulé pour hors-jeu de Vinicius, on se dit que c'est reparti. Le problème, c'est que, en fait, quand tu décides de ne pas gagner, parce que c'est plus ou moins ce qui a été décidé, tu dois ne pas perdre. Et si tu perds, c'est que ton plan, finalement, il a raté, quoi. C'est là-dessus, et ça va être le ton un peu des papiers qu'on va diffuser entre ce soir et demain. Ça va être un petit peu ça. Tu peux avoir un plan défensif. D'ailleurs, il est plutôt bien exécuté sur une grande partie du match. Le fait d'être en bloc médian, c'était peut-être une bonne idée. Le fait d'être très compact, c'était une bonne idée aussi. Mais si à un moment ça pète, bah ça pète. Et puis au final, tout ce que t'as fait avant, pendant les 83 minutes qu'on précédait, ça compte plus vraiment. Donc voilà, moi je suis un peu gêné par aussi le manque de joueurs de différence qui a été placé sur le terrain. Alors certes, tu as Shaqiri qui a une petite alerte à la cuisse entre l'entraînement d'hier et le dernier test ce matin, qui a décidé il a été décidé qu'il ne joue pas ce match. Tu as Okafor aussi qui est blessé, qui fait quand même une bonne saison à Salzbourg, et qui, on espère qu'il pourra revenir pour le dernier match. Mais ce qui est assez clair, c'est que tu manques de joueurs de différence. Ce soir sur le terrain, t'as Embolo qui peut faire des différences, et puis t'as Vargas qui peut faire des différences. C'est beaucoup trop peu dans un match où tu dois te créer quand même quelques occasions.
Alors, le premier match contre le Cameroun, la Suisse a subi pas mal d'occasions et n'a pas encaissé de but. Mais enfin, c'était pas non plus génial. Et là, tu le sens comment pour la Serbie là, du coup là ? Quel est le degré de confiance dans le camp suisse ?
Mais je pense que le degré de confiance, il reste quand même assez élevé, parce que a priori, et d'ailleurs c'est ce que disait tout à l'heure Granit Xhaka, a dit, moi je crois au miracle, mais celui-là le miracle il croit pas, et il faisait référence à la victoire du Cameroun sur la Serbie, avec un nul contre, sur le Brésil, avec un nul contre la Serbie, et puis que le Cameroun qui gagne pas dans l'autre match, t'es qualifié. Donc c'est déjà quand même un sacré avantage. Le 3-3 de ce matin, il est quand même sacrément avantageux pour la Suisse.
Tout ça donnera raison à Yakin sur sa méthode, parce que finalement il est tout proche d'un 8e de finale alors qu'il n'aura rien montré, quoi.
C'est à peu près ça. Je suis assez d'accord avec ce constat. Maintenant, il y a aussi une vérité, c'est que le match contre le Cameroun avait une approche particulière. Celui contre le Brésil a une approche particulière. Je parle de configuration de jeu. Celui contre la Serbie sera encore différent dans la configuration de match qui sera proposée. Il y aura forcément un peu plus d'intensité. J'imagine, j'attends les Serbes qui soient assez agressifs, qui balancent des longs ballons, qui trempent dedans. Et là, il faudra être capable d'exploiter de la profondeur et de donner de la profondeur au jeu. Et c'est quand même ce qui a manqué contre le Cameroun, c'est ce qui a manqué encore aujourd'hui.
Ouais.
Je sais pas qui tu peux insérer. Si tu as un Okafor qui est de retour, tu as quand même un autre élément un petit peu différent qui peut l'apporter, quoi.
Est-ce que vous pouvez mettre
groupe, alors, du coup.
Oui, les Serbes vous... encore peuvent se qualifier.
Voilà, donc c'est
une sorte. Attention, les Serbes.
Ah, faut pas perdre contre la Serbie.
Je les ai vus jouer deux fois. Franchement, il y a de gros problèmes.
Non, mais je suis d'accord avec toi. On est bien d'accord que s'ils battent la Suisse, ils vont en 8e, les Serbes aussi.
Serbes.
Ah, donc le Cameroun gagne aussi.
Non, ça dépend. Si le Cameroun bat le Brésil.
D'accord. Oui, le Cameroun, non, c'est. Oui, d'accord. Mais bon.
Valentin, est-ce que.
Imagine. Que les Serbes aillent en 8e, enfin, tout comme les Suisses, sont deux équipes qu'on retrouve en 8e, alors que depuis le début de la compétition, elles n'ont rien montré, les deux équipes.
Ah, c'est clair.
Enfin, si, les Serbes, sur l'action du. Quand ils mènent 3-1 contre le Cameroun, attention, soulignons-le, les beaux buts, on aime bien ça. L'action du. C'est le deuxième ou le troisième but serbe, là, quand ils se baladent dans la surface.
Le troisième, le but de Mitrovic.
Magnifique.
Le troisième,
vraiment.
Début de deuxième,
voilà. Non, mais ils ont des gros problèmes défensifs, les Serbes.
Problème un peu partout.
Justement, je voulais demander à Valentin par rapport à ça, parce que défensivement, il y a de la place, mais à condition aussi que les Suisses, qui sont capables de bien détruire, contenir le jeu adverse, le jeu offensif adverse, est-ce que Yakin est capable de mettre un deuxième attaquant à côté de d'Embolo? Et permettre là-dessus justement au groupe, au bloc suisse de se projeter, parce que là Embolo, à chaque fois, je trouve qu'il est trop seul.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors le deuxième attaquant, ça va déjà dépendre si Okafor est remis ou pas. A priori, c'est aussi pas mal de précautions qui a été pris avec lui. Seferovic, Embolo, j'ai de la peine à l'envisager quand même. Shaqiri, il sera mis. Enfin, s'il est apte, il sera mis. Vargas, il l'aime bien, notamment pour son travail défensif. Donc je pense qu'il aurait, ça voudrait dire sortir un milieu. Ce serait sortir a priori Gibrixo, qui a quand même pas fait un excellent match avec le ballon aujourd'hui. Moi, je pense qu'il est capable de le faire, mais Mais Yakin, il a toujours ce penchant défensif qui le rattrape toujours, et c'est quelque chose qu'il a construit tout au long de sa carrière d'entraîneur. Il a un versant défensif qui est important, et le fait qu'il y ait ce match nul qui puisse suffire, eh ben ça va peut-être l'amener à pas prendre trop de risques non plus. Donc moi j'ai un peu des doutes sur le fait de tenter un 4-4-2 avec deux pointes style Mbolo à un autre, comme il peut jouer à Monaco ou un truc comme ça.
Ouais, avec moi, un saut qui sortirait à la place. Ouais.
Valentin, merci beaucoup, et puis passe nous voir un de ces soirs dans notre studio là, hein. T'es le bienvenu.
On essaiera dès qu'on a un petit peu plus de temps libre, dès qu'on sera un peu, on passera faire un tour.
Oui. T'allais nous dire dès que la Suisse est éliminée. Non, ne le dis pas.
Dès vendredi soir, quoi.
Ouais, peut-être la semaine suivante, on verra.
Ça marche. Merci Valentin, bonne soirée.
Merci à vous, ciao.
À très vite dans l'after. Dans un instant, l'équipe de France est au programme. On parlera ensuite du Ghana. On aura une spécialiste du Ghana tout à l'heure.
Ah oui.
Qui connaît très bien les joueurs ghanéens et qui nous en dira plus sur cette équipe assez étonnante. C'est vrai que les Ghanéens, ils ont quand même perdu trois gardiens avant la Coupe du Monde. Ils ont quand même réussi à en trouver un qui est pas mal. Et Ziggy,
pas mal,
là.
Pas mal du tout, Ziggy. Hein?
Comment tu l'appelles?
Ziggy,
c'est ça. Il s'appelle Ziggy. Oui, il s'appelle.
Comme Stardust.
Exactement.
Voilà.
C'est un garçon pas comme les autres.
Comme chacun ses références. Hein. Vous, c'est un gardien. Dion, ouais, moi, c'est Bowie. Vous faites ce que vous voulez.
Allez, à tout de suite avec l'équipe de France au programme. Et l'imbroglio ou pas Benzema. Qu'est-ce qui se passe avec Benzema? On va vous en dire plus dans quelques instants et débattre de cette situation avec notamment les supporters de l'équipe de France qui sont ici avec nous dans notre studio au Qatar. On se retrouve dans quelques instants.
RMC After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois. L'after est là jusqu'à 1h du matin. La libre antenne tout à l'heure avec Nico Villas et Thibaut Jean-Grande pour l'instant. Lionel Charbonnier est là. Daniel Riolo. Et là, on va parler de l'équipe de France. Et on a avec nous Amine et Arthur qui sont dans notre studio ici au Qatar. Amine, bonsoir.
Bonsoir.
Toi, tu viens du Canada donc?
Ouais, je viens de Toronto plus précisément.
Bon, supporter de l'équipe de France. Je ne t'entends pas d'accent prononcé québécois.
Non, pas du tout. Bah, j'ai grandi au Maroc. Et,
effectivement, c'est vrai. Donc, du Canada.
T'as fait de la viande.
Mais t'es venu pour le Maroc France, ou pour Canada. La France?
Je suis venu pour les deux. Mon joueur préféré, c'est Benzema. Bon, malheureusement, il ne joue pas. Mais Mbappé aussi pour le PSG. Donc, on espère que l'équipe de France ira très loin.
Et puis Arthur est là également. Salut Arthur.
C'est pas Arthur, c'est son papa, c'est Alex.
Enfin, on m'a mal informé, Jérôme, là, qu'est-ce que ça travaille?
Mais il a donné le nom des enfants.
Ouais, voilà.
Qu'il est avec les enfants.
Avec fin. Arthur et Clovis, je suis
venu. Bon, salut, ils sont là. C'est marrant, il y en a qui sont déjà en vacances. Bizarre, cette histoire.
Le Covid.
Ah, oui, c'est ça. Bravo les gars, vous avez bien négocié. Bon, ben, salut Alex, alors du coup. Je vous donne les infos Benzema. Parce que ça, c'est... Enfin, les infos. Je vous donne ce qu'on a comme info, parce que Daniel, il y a des choses à recouper et tout. Tout est parti aujourd'hui d'un compte des réseaux sociaux qui suit le Real, donc des gens informés hein, qui suivent tout, et qui a annoncé, attention, Benzema revient à l'entraînement dans les jours qui viennent. Donc on se dit, attends, bah, s'il revient à l'entraînement, c'est qu'il est guéri, ou alors au moins en voie de guérison. Donc, la Coupe du Monde durant encore un mois, bah, qu'est-ce qu'il faut penser? Est-ce qu'il faut penser que finalement il est parti trop vite? Ou alors que l'équipe de France a fait l'erreur de le laisser partir. Peut-être que lui-même, bon, je sais pas, a mal jugé ou a mal ressenti les choses. Enfin voilà, ça laisse la porte ouverte à pas mal de débats. Ce soir sur TF1, notre ami Samir Desfarge, qu'on connaît bien,
bien sûr, a
annoncé que non, en fait, il reprendrait pas l'entraînement dans les jours qui viennent. Donc là, on a des infos contradictoires. Mais enfin, il va quand même falloir tirer ça au clair, Daniel, parce que si d'aventure dans 15 jours on le voit faire un match amical contre Tarragone, alors qu'il y a France-Brésil le lendemain, ça risque de tiquer quand même.
Ouais, alors ça arrivera peut-être pas, mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est pourquoi c'est si louche. Pourquoi c'est si troublant? Pourquoi tout n'est pas clair? T'as un mec qui est blessé, il est parti, au revoir. Eh ben c'est pas comme ça. C'est pas comme ça parce que tout est bizarre dès le départ. Il arrive, il dit qu'il va bien, le staff ne fait pas l'IRM. Ou d'où et comment c'est possible de pas faire l'IRM? Pourquoi il y a eu ce trou dans le suivi médical de Benzema?
Trou dans la raquette, comme on dit.
Et soi-disant, ils auraient fait. Alors, je m'interroge, mais ils auraient fait. des images le soir même. Mais le soir même, ce qui m'embête, c'est que, alors à moins qu'ils aient des images à Doha, enfin des machines spéciales qui font que bah tu puisses faire tout de suite une image, mais normalement c'est 48 heures, parce que si ça a saigné, tu ne vois pas l'étendue, tu n'arrives pas encore à voir l'étendue de la déchirure qu'il y aurait. Mais là, et ça m'interpelle quelque part.
Bah moi, bon là-dessus, moi, faisons quand même confiance au médical, parce que là, on n'est
oui,
pas.
Oui, mais non, mais de toute façon, toute la période avant, on ne sait pas exactement quel est son état de santé. Il dit toujours que ça va aller, que tout va bien, que ça va aller, que tout va bien. Je connais mon corps, je connais mon corps. Finalement, il connaît pas son corps puisqu'il arrive, il est blessé. Malgré tout,
Ancelotti aussi l'a dit. Hein.
Exactement. Malgré tout, il est là. Donc, qui a menti, j'en sais rien. J'accuse personne. Je déroule les faits et je les trouve étonnants. Il fait pas l'IRM. Le suivi médical pose question. Il revient à l'entraînement, il se blesse. Il se barre en pleine nuit. Il dit au revoir à personne. Ok, il est dégoûté, ça lui fait de la peine, il s'en va. Donc, comme il est dégoûté, il dit au revoir à personne. Bon, on regarde les autres sélections, il n'y a pas de mecs qui partent comme ça. Il n'y a pas une espèce de folie quand il part, de message, parce que s'il communique énormément sur les réseaux, t'es là, tu scrutes un peu les réseaux, ça continue d'être trouble. Aussi bien ses messages à lui, certains messages de l'équipe de France, bon, ils sont immédiatement passés à autre chose. Je reviens pas sur tout ce que j'ai dit déjà depuis plusieurs jours, parce que ça c'est autre chose. En tout cas, que certains se sentent libérés, se sentent un peu mieux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une réalité. Bon. Passons également là-dessus. Il s'en va. Pourquoi Marca dit il va revenir à l'entraînement? Pourquoi ceux qui se mettent sur le dossier disent non, c'est pas vrai, il va partir à Miami en vacances? Pourquoi encore tout ce flou? Pourquoi cette communication zéro de Benzema? Pourquoi toutes ces questions? Pourquoi si jamais Deschamps veut le rappeler, il peut être disponible? Comment ça, il peut être disponible? Il est disponible ou pas disponible? Il va à Miami ou il va pas à Miami?
Non, mais c'est le règlement. Le règlement dit que il est toujours sur les. Donc demain il peut revenir et jouer parce que le règlement fait qu'il est toujours sur la liste de l'équipe
d'accord.
de France.
Donc on dit qu'il est grosso modo dispo. Qu'il aurait pu être là, mais ça on le savait grosso modo que pour les huitièmes il aurait pu être là.
Pourquoi est-ce qu'il est parti? Le staff de l'équipe de France aurait très bien pu le garder en disant.
Il est parti parce que Deschamps avait dit il faut que tout le monde soit opérationnel au premier
match. Il n'était pas assez
opérationnel. Ce qui n'a pas été vrai pour Varane, néanmoins. Ce qui n'a pas été vrai pour Varane. Donc ça veut bien dire qu'il s'est passé quelque chose. Ça veut bien dire qu'il s'est passé quelque chose qu'on ne nous dit pas.
Et le degré de blessure n'était pas le même.
Et on va le trouver. Et on va le trouver.
Lionel.
Non, moi je te dis qu'il y a un truc louche.
La différence entre Varane et Benzema, c'est que Varane était sûrement beaucoup plus avancé et les mecs étaient sûrement beaucoup plus optimistes pour Varane. Donc tu te dis OK, et parce que tu parles avec les joueurs, tu fais des tests avec Varane, il passe les tests, tout va beaucoup mieux pour Varane que pour Benzema. Donc tu dis Varane, je le garde. Par contre,
non.
Benzema,
non,
tu essaies.
C'est être opérationnel au premier match. Varane ne l'était pas, Benzema ne l'était pas.
Il y a différents stades pour être opérationnel.
Lionel, tu dois l'être. C'était ce qui avait été dit. Ouais. Tu dois être opérationnel, sinon ça veut dire que t'es blessé. Il s'est enfermé dans une communication.
Deschamps a dit Varane était opérationnel pour le match. Il était sur le banc. Bon,
il était sur le banc. Il n'a pas voulu prendre de risque. Il n'a pas voulu prendre de risque alors que Karim n'était pas, ne serait pas opérationnel par rapport à ce qu'il a dit. Moi là-dessus, je trouve rien de choquant.
Tout le reste, tu trouves que c'est de l'eau
roche. La seule chose, effectivement, Karim s'est blessé peut-être ailleurs. Alors ça, je sais pas. On dit qu'il s'est blessé ailleurs, sur une autre cuisse ou quoi, ou qu'est-ce que ça serait une blessure compensable. Je ne sais pas, je ne veux pas en parler, je ne peux pas en parler, je ne sais pas là-dessus. Par contre, si la blessure qui a été constatée et ce qui a été, parce que ce n'est pas ni le groupe ni rien, c'est quelque chose, c'est une décision qui a été prise. Et ça, je peux mettre ma main à couper entre Didier, le staff médical et Karim Benzema. Les trois, et notamment les deux, le staff
Lionel,
médical et surtout Karim Benzema.
Garde ta main bien au chaud, je te dis qu'il y a quelque chose.
Mais je la joue. Je m'en sers plus de toute façon.
Oulala,
je m'en sers plus.
Ne la joue pas. Ouais, parce que
écoute, laisse-moi finir. Et si Karim dit, écoute, là, j'ai ressenti un truc, je peux vraiment pas. Eh ben, il y a pas de souci. Après, il peut y avoir plein de personnes qui pensent plein de trucs et tout ça. Là, je l'ai vu le truc. J'ai lu le le message là sur Twitter, ils disent serait reprendrait l'entraînement dans les prochains jours. C'est-à-dire les prochains jours, déjà on ne sait pas quand est-ce que ce sera. Après, il a été aujourd'hui, il a fait du vélo. Si tu fais du vélo à ce stade-là, ça veut dire que t'es loin de pouvoir poser le pied par terre convenablement. Là, il a fait du vélo en roue libre. Le mec, il pédale, c'est juste pour maintenir le cardio. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun effort physique au niveau de sa blessure. Ça, c'est évident. Et sa blessure, pour moi, elle a été jugée que Karim ne pourrait pas revenir, ou s'il revenait, ça serait qu'à la fin. Et à la fin, Didier ne veut pas de ce truc-là. Comme t'as dit, Daniel, il fallait qu'il soit opérationnel. Il n'y était pas. Ciao, bye. Point barre.
Alex, tu dis quoi, toi? Enfin, un broglio, t'estimes qu'il y a un loup, toi aussi, ou?
Je suis un peu du même avis que Daniel. Je pense que lorsqu'il a pris Marcus Thuram, c'est qu'il savait déjà que Karim Benzema n'aurait pas pu être disponible dès le début de la compétition. Parce qu'au début, il fait une annonce avec 25 joueurs de mémoire. Et puis, on s'y attend pas. Il reprend un 26e joueur.
Tout à fait.
On est tous surpris quand on l'apprend dans les journaux télévisés. Donc, je pense que Didier Deschamps le savait deux jours avant le début de la compétition.
Oui, ou alors il avait une forte présomption qu'il y aurait souci, quoi.
Oui, exactement.
Ouais.
Mais alors, il est où le souci? Il est où le souci?
Et le souci, c'est la transparence. C'est qu'en fait, dans ces cas-là, tu peux pas dire un jour, il faut que les mecs soient aptes au premier match, et puis en fait, derrière, prendre 25 gardes, dire bon, je vais attendre 2-3 jours pour voir, et puis finalement, il sera pas prêt celui-là.
Il sera pas prêt, j'ai une liste de 26, il sera pas prêt. Mais non, dis-le, pourquoi tu veux? Mais il l'a dit, à la fin, il a dit, Karim sera forfait, basta, il a essayé de repousser au maximum, pour que Karim puisse, voir si Karim et si le staff médical arrivait à le soigner. Au pire, ils auraient réussi un miracle, peut-être, si on peut appeler ça un miracle. Ils l'ont tenté, ils l'ont pas réussi. Bon, ciao, Karim, tu peux pas, parce que, et Karim est d'accord, il s'en va. Je vois pas où il y a polémique là-dedans, j'aurais fait exactement la même chose, et n'importe quel entraîneur avec un mec comme Benzema aurait tenté jusqu'au dernier moment, vu que t'as la possibilité d'en prendre 26. Et alors par contre, là où Dédé est revenu, c'est sur la liste des 26. Au départ, il ne devait pas du tout en prendre 26, mais il y a eu Varane et il y a eu Benzema. Rappelez-vous quelque chose, écoutez l'after que je vous avais dit, qu'on avait fait au mois de février-mars, qu'on avait dit que Giroud n'irait pas au mondial. J'ai dit hop, attendez, on sait pas comment, dans quel état sera Karim Benzema, et on sait pas ce que fera Giroud avec l'AC Milan. Écoutez ça, et maintenant écoutez-moi.
Il a remonté, Lionel. Hein.
Mais non, mais parce que il y a pas de polémique à avoir, c'est de la stratégie. Après, qu'elle vous plaise ou qu'elle vous plaise pas, c'est de la stratégie. La stratégie que n'importe quel entraîneur aurait fait. Quand t'as un joueur comme Karim, tu vas au bout du bout. Tu peux, vas-y maintenant, essaie de forcer, parce que je te prendrai pas un Karim à 90%. Il faut que les mecs soient à 100%. Karim, il a forcé, il a pété, il a senti, il a dit non, ça ira pas. Il a pas triché avec le groupe. Il a dit moi, je serai pas à 100%. Ok, Karim, merci beaucoup. T'as pris la décision. On la prend en commun, t'inquiète pas, et ciao, et soigne-toi bien. C'est tout, c'est simple.
Non, en fait, c'est pas du tout simple, mais on va attendre quelques jours avant de clarifier la situation et on expliquera.
Le football est un jeu simple pratiqué par des gens compliqués.
Oui, problème, là, on est en dehors du foot.
Le
là.
Problème, c'est qu'on ne sait pas.
Ça fait partie du foot. C'est le foot, la gestion des hommes, le management, c'est du foot.
Attendons quelques jours.
Amine, tu veux rajouter un truc?
Moi, je pense que je vais aller dans votre sens, mais le problème, c'est que je pense que pour un joueur aussi exceptionnel que Benzema, il ne faut pas communiquer comme avec n'importe quel autre joueur. Et vu son importance dans le dispositif auparavant, même en Ligue des Nations, c'est lui qui sauve l'équipe de France en quelque sorte. Donc, je pense que pour Benzema, il fallait communiquer différemment pour, comme tu l'as dit, avoir plus de transparence.
Bon, et puis après, évidemment qu'on ne peut pas s'empêcher de penser, Daniel, pour conclure sur le dossier, que tout ce qui est sorti, les infos de ces derniers jours, faisant état de la libération de certains du fait de l'absence de Benzema, ça n'a pas forcément plu autour de Benzema, et que donc, cultiver l'idée qu'il puisse revenir, ça pourrait satisfaire quelques personnes autour de lui. Quoi, voilà.
Oui, c'est possible, c'est effectivement. Tu as raison d'évoquer ça également.
Bon, voilà sur Benzema ce qu'on peut dire ce soir. Voilà. Sinon, l'équipe de France aujourd'hui, bah, pas grand-chose. Hein. À part qu'ils jouent au curling football.
Tant mieux, ils sont détendus.
Voilà. Le principe, donc, c'est que tu envoies le ballon plus près du poteau de corner. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Bon, il y a quand même eu entraînement hein, et conférence de presse. Enfin, rien d'exceptionnel sous le soleil. Qatari. Alex, c'est quoi ton programme là ici au Qatar? Combien de matchs? Qu'est-ce que vous allez faire?
Eh ben là, en début de matinée, on a fait Serbie-Cameroun, qui était franchement un bon match. J'y étais aussi. Sympa. Ouais, franchement, j'étais très déçu de Mitrovic. Parce que moi, j'ai trouvé la Serbie finalement pas trop mal.
Déçu de Mitrovic, le défenseur, l'ancien de Strasbourg qui est rentré, qui est pas meilleur qu'avant.
Il a tout loupé. C'est parce que je pense que sinon, il n'y a pas match.
Oui, on va en reparler tout à l'heure.
Et puis voilà, le prochain match, bah, c'est France-Tunisie. Et on a fait France-Danemark, là, il y a deux jours avec les enfants. Et c'était vraiment exceptionnel.
Tu étais dans la tribune des supporters français? Enfin, vous étiez en famille dans la tribune des supporters français?
Exactement, ouais. Il y avait une bonne petite ambiance. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment sympa.
Bon, voyage préparé depuis longtemps? Vous avez anticipé ça ou pas trop? Bon, ça a un coût quand même.
Écoute, si tu veux, la petite histoire, c'est qu'il y a 6 ans, je crois, à peu près, on a su que la Coupe du Monde aurait lieu en plein hiver.
Il y a 12 ans, on l'a su.
Non, ouais, mais en hiver.
En hiver.
Ah oui, d'accord, c'était pas effectivement.
Et les enfants là, qui sont à côté de moi, ils avaient 6-7 ans, et j'aurais dit, bon, on ira au Qatar. Bon, je me suis dit, ils vont oublier. Et puis à chaque Noël, à chaque... Hein, c'est vrai qu'on va au Qatar, je l'ai dit aux copains. J'ai dit, ouais, on va y aller. Puis
il suffit qu'ils disent aux copains et ça tombe alors.
J'avais engagé ma parole. Ah. Et puis on s'est mis...
T'as même pas soumis ça à un bulletin parfait ou un truc du genre?
Si, il y avait 3 conditions. Un, financière, que je puisse être en mesure de le faire. La deuxième, c'était que l'équipe de France soit qualifiée. Et puis la dernière, c'était qu'ils aient des bons résultats. Et puis les mamans...
La France qualifiée, c'est le plus simple des 3 conditions.
Peut-être. Voilà, et donc nous voilà. Et puis vraiment, la chance d'avoir été tiré au sort pour pouvoir avoir accès à des matchs. Parce que là, je me rends compte qu'on ne peut pas trouver aussi facilement que ça des places. On a trouvé donc Serbie-Cameroun, mais apparemment, tout va se jouer à guichet fermé.
Oui, enfin,
apparemment.
Enfin, guichet fermé. Il y a des gens qui ont des places qui vraisemblablement ne vont pas au stade. Ça, c'est encore un autre problème.
Oui, c'est ça.
Mais bon, c'est comme ça. Et toi, Amine, c'est quoi ton programme?
Moi, je suis venu pour voir les matchs du Maroc, notamment. J'ai vu le Maroc-Belgique, bon, qui était le match le plus important et uniquement celui que je voulais voir. Mais c'est difficile de trouver des places, mais j'ai entendu des rumeurs comme quoi 3 heures avant les matchs, des places se libéraient parce que. Il y a un système selon lequel, si vous n'arrivez pas au Qatar 24 heures avant le début du match, votre match...
Ah, et votre billet, il s'annule.
Ouais, exactement, il est remis en vente.
Ah ouais, donc il faut être attentif à ce qui se passe, en fait.
Exactement, il faut vraiment revoir dans la plateforme et tout. Et donc, je vais tenter le tout pour le tout pour le Canada-Maroc. Et si le Maroc, on arrive en demi-finale, de toute façon, je serai là pour la demi-finale.
Bon, on te le souhaite, mais je ne sais pas si... A priori, quand même, il y a plus fort. Bon, on verra. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Enfin, vous restez, hein, les gars. Vous êtes chez vous ici, sur RMC dans l'after. Évidemment.
Merci beaucoup pour l'invitation à vous deux, à Oussem et à tous les autres qui nous ont accueillis. L'ambiance a été extraordinaire. Merci beaucoup.
Ça marche. Salut les gars. L'Afrique, Daniel, dans quelques instants. Gros plan sur le Ghana. Gros plan sur le Cameroun qui ont joué aujourd'hui et puis le reste de l'actu évidemment au programme d'ici minuit dans l'after. On va notamment parler de la Juve comme promis tout à l'heure.
RMC After Foot Intégrale Coupe du Monde.
Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Avec Lionel Charbonnier, avec Daniel Riolo, on est là jusqu'à minuit. Ensuite, c'est Nico Villas et Thibaut Giangrande qui prennent la suite jusqu'à 1h du matin avec la libre antenne de l'After. Et évidemment, on a le gagnant de notre jeu, Philippe, qui remporte le maillot du Portugal. Bravo Philippe.
Gagnez votre maillot sur RMC avec Foot Corner. Jusqu'à 70% de réduction sur les plus grandes marques de sport, c'est la Black Week. Jusqu'au 28 novembre sur footcorner.com.
Voilà, demain soir, de nouveau maillot à gagner. Tiens, on me dit que tu as parfaitement bien résumé l'affaire Benzema. On écoute.
Tout le reste, tu trouves que ça coule, c'est de l'eau de roche.
Quoi, c'est de l'eau de roche? Ça coule comme de... Non, c'est de l'eau de roche, c'est pas transparent.
Ça coule comme de l'eau de roche. Oui, ça coule de source. C'est clair comme de l'eau de roche ou ça coule de source. Ah oui.
Non, mais d'accord. Mais moi, ce que je voulais dire, c'était. Attends, remets-le. Non, c'est pas une boulette. C'est une adaptation d'expression. C'est pas du tout la même chose. Réécoute-le bien. Je dis bien, est-ce que c'est comme de l'eau de roche? L'eau de roche, c'est limpide, c'est clair, c'est propre. Et c'est ça que je dis. J'ai pas utilisé l'expression. J'ai utilisé une moitié d'expression. C'est pas exactement pareil.
Ah, même là-dessus, il est pas d'accord.
C'est vrai. C'est un peu comme si tu disais, vole pas un œuf.
Tout le reste, tu trouves que c'est de l'eau de roche.
Voilà, c'est de l'eau de roche. Tu vois, je coupe l'exemple. C'est comme si je te dis, vole pas un œuf. Et que je dis pas, parce que sinon, c'est comme si tu voles un bœuf. Tu vois?
Oui, parce que qui vole un bœuf, vole un œuf.
Exactement.
C'est ce qui est ça, là.
Non, l'expression, c'est que tu voles un œuf, vole un bœuf. C'est pas, tu voles un bœuf, vole un œuf, voyons, c'est qui. Voyons.
Qui vole un œuf, vole un bœuf.
C'est ce que je dis. C'est ce que je viens de te dire, c'est toi bizarre, qui dis le bœuf. Oh, vous faites exprès, arrêtez, vous faites exprès, vous me prenez pour un idiot, arrêtez, ça va.
Bon. Non. Allez, on ouvre le dossier ghanéen, si vous le voulez bien, parce que les Ghanéens nous a quand même bien bluffé aujourd'hui. Ils avaient déjà été pas mal sur le premier match. Ils avaient marqué, ils avaient perdu, mais ils n'avaient pas été ridicules loin de là. Et pourtant, c'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément. Ils ont eu pas mal de galères avant la compétition. On est en ligne avec Lydia Leclerc, qui connaît très bien l'équipe du Ghana, et pour cause. Lydia collabore, est une collaboratrice de Bruno Satin, qu'on connaît bien.
Ah, non, mais aucun rapport avec Michel Edouard.
Par rapport à Leclerc ?
Oui.
Je ne sais pas. Ah, Lydia, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Aucun rapport, hein, tu confirmes.
Non, aucun. Je confirme.
Alors, explique-nous, tu bosses un peu avec les Ghanéens, enfin, tu étais proche de la sélection et de la Fédé ?
C'est ça. Je travaille bien avec la Fédération, qui a changé. On a changé de fédération il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Et ils avaient le souhait de travailler avec beaucoup de binationaux. Ils voulaient recruter plus de binationaux. Ça faisait partie de leur projet. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis intervenue, puisque je suis, on va dire, une binationale. Donc on va dire que je suis beaucoup les championnats européens, notamment français. Et du coup, je connais les Ghanéens qui évoluent ici en France notamment. Donc,
c'est toi qui as œuvré pour que Djikou rejoigne l'équipe du Ghana ?
Exactement.
Bon, il est rentré là aujourd'hui, le défenseur.
Oui,
de...
il a bien fait.
Ça lui permet de jouer une Coupe du Monde, c'est quand même beau.
Clairement. Et aussi, ce qui est très...
Je crois que Gilbert aimerait que tu dises que c'est tout le résultat du Ghana, et vraiment, principalement, c'est grâce à lui.
Bah, non, il n'était pas titulaire, le pauvre.
Oui, mais même un petit peu, quoi. Même sa présence suffit en tant que Strasbourgeois.
Aussi, et puis ce qui est très bien avec Alexander, c'est que quand il arrive au Ghana, ce qu'il faut savoir, il ne parle pas du tout aucun de nos dialectes. Il ne parle pas très bien non plus Pidgin English, mais aujourd'hui, il s'est vraiment bien adapté. Il fait partie des gars qui chantent avant les matchs et tout ça. Il s'est vraiment bien intégré.
Alors, Lydia, est-ce que tu es étonnée par le match d'aujourd'hui du Ghana ? Ou est-ce que toi, pour les avoir vus et suivre la sélection depuis un moment, tu savais qu'ils pouvaient le faire ? C'est-à-dire gagner en Coupe du Monde, ce qui n'est pas forcément évident pour toutes les équipes.
Alors oui, je savais qu'ils pouvaient le faire, dans le sens où déjà le premier match contre le Portugal, même si au début on est trop timide et qu'on donne beaucoup trop de respect aux Portugais, ils ont quand même essayé de montrer des choses avec coup douce, tout. Enfin, l'ensemble des joueurs a essayé de montrer des choses, même si au démarrage on est un peu timide. Et oui, je savais qu'aujourd'hui ils pouvaient. Ils pouvaient faire quelque chose, ils l'ont fait, enfin, je pense.
Bah oui, moi, et là, ils peuvent encore se qualifier avec donc ce fameux.
Un revival contre l'Uruguay maintenant.
Oui, voilà, ce fameux match contre l'Uruguay qui est fou, quoi.
C'est ça. Un match
C'est encore un match qui est resté dans toutes les mémoires au Ghana.
Ah oui,
on s'en souvient tous, mais c'est absolument. Enfin, ce match était tellement dingue au Ghana, c'est encore tout le monde s'en souvient. Ça reste en travers de la gorge encore là-bas.
toujours. Donc pour nous, forcément. Vendredi, c'est notre finale. C'est un match très 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 important, parce qu'on n'a pas oublié la main de Suarez, on n'a pas oublié Gian qui met pas le penalty. Donc oui, c'est un match très très important.
Lydia, dans le match d'aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler un petit peu du cas Jordan Ayew qui est, je pense, ne pas me tromper, assez décrié de la part des supporters ghanéens, mais toujours tous les coachs qui se sont succédés lui ont toujours donné une grosse confiance, et aujourd'hui il a encore été déterminant dans la victoire. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? Pourquoi est-ce qu'il est décrié? Et quand on le voit, parce que moi quand je le vois aujourd'hui, franchement, bravo Jordan, quoi, il a été magnifique encore.
C'est vrai qu'aujourd'hui il a fait un très bon match. Malheureusement, quand il est entré en jeu contre le Portugal, parce qu'il n'a pas commencé le match, forcément il était frustré de ne pas commencer le match, et malheureusement ça s'est ressenti sur le terrain. Et par rapport à ça, les Ghanéens disent, ils rentrent dans le terrain, ils ne s'échauffent pas, ils ne jouent pas le match qu'on souhaite qu'ils jouent. Et par rapport à ça, c'est vrai que oui, il y a eu beaucoup de critiques. Les critiques, il les a entendues. Et je pense qu'il y a eu, ça a donné une réaction. Parce que le match qu'il fait aujourd'hui, il a fait un très bon match. Et j'aime beaucoup Jordan, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu jouer comme ça.
Il a répondu de la bonne manière, de la meilleure des manières.
Exactement, clairement.
Enfin, l'homme du match, c'est quand même Kudus, là. On parle des frères Ayew, c'est très bien, mais enfin, Mohamed Kudus.
Surtout Jordan, ouais, les frères.
Oui, Kudus, l'homme du match, même contre le Portugal, si vous vous souvenez, il fait un très bon match. Et Kudus est un joueur, c'est un playmaker, il défend, il attaque. Aujourd'hui, nous, on l'appelle Starboy. C'est notre. Il y a beaucoup d'espoir autour de Kudus, de Souleymana, de plein d'autres jeunes. Mais c'est vrai que Kudus, oui, c'est. Et puis, c'est un jeune qui vient. Nous, on appelle ça Zongo. C'est l'équivalent de Félas. Donc, il nourrit énormément. Les gens se voient beaucoup en lui, ils espèrent beaucoup de choses par rapport à Kudus, oui.
Dis-moi la politique, parce qu'effectivement sur les binationaux, donc on parlait de Djikou, mais il y a surtout Inaki Williams quand même qui est ce joueur qu'on connaît bien de Bilbao, le fameux gars qui a enchaîné tous les matchs, là, qui a le record de matchs joués.
Comment il a été accueilli au Ghana?
Alors, il a été très bien accueilli, parce que forcément, c'est un joueur qui fait bien. Et ils sont toujours très contents d'avoir des binationaux, d'avoir des jeunes qui sont nés, qui ont grandi en Europe, mais qui viennent quand même jouer pour le Ghana. Donc,
ils lui ont pas dit qu'il aurait pu se décider plus tôt et pas attendre le dernier moment?
Bien évidemment. Ça, on a beaucoup entendu, que ce soit pour lui et pour d'autres. On a eu beaucoup de personnes qui critiquaient en disant « Vous venez parce que c'est la Coupe du Monde ». Ça, c'est des choses, oui, bien sûr, qu'on entend tous les jours. Donc, certaines personnes qui les voient comme des opportunistes, on va dire. Ça, oui, ça, c'est quelque chose qui est là.
Mais alors, parce que au début, tu nous disais que la Fédé avait cette volonté de se tourner vers les binationaux. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire qu'on a estimé qu'au Ghana, on n'avait pas le réservoir suffisant pour avoir une équipe au niveau? Ou alors on se dit, bon, quand même, quand on a un gars comme Inaki Williams qui potentiellement pourrait jouer pour nous, c'est un peu bête de passer à côté? C'est ça la démarche?
Alors, c'est ça. La démarche, c'est ça. Parce que le réservoir, je pense qu'on l'a, on est aujourd'hui en Afrique. Le Ghana, on est vraiment une nation de football. On est aujourd'hui le pays.
On voit avec les jeunes aussi.
Exactement. On est le pays qui exporte le plus de joueurs à l'étranger en termes, on va dire, de proportion par rapport à la population, bien sûr. C'est nous qui exportons le plus de joueurs. Mais c'est vrai que la fédération ne voulait pas passer à côté des binationaux en se disant ils ont soit le papa, la maman ou parfois les deux qui sont d'origine du Ghana. C'est des garçons qui font bien dans des championnats compétitifs. Donc, il ne faut pas passer à côté. Et cette nouvelle fédération a vraiment misé sur ça.
Et la fédération, est-ce qu'elle a été soutenue par le gouvernement dans cette prise de position où il peut y avoir, comme il y a beau dans, pas spécialement au Ghana, mais dans tous les pays africains, une opposition? Est-ce qu'elle a subi une opposition de la part du gouvernement parce qu'elle avait adopté cette politique-là, ou est-ce qu'elle a été soutenue?
Elle a plutôt été soutenue. Elle a plutôt été soutenue parce que...
Et les militaires disent rien non plus? Ça va?
Non, mais vous savez, au Ghana, c'est très, c'est très peaceful, c'est très pacifique. Donc, à partir du moment où la personne veut apporter quelque chose de nouveau et qu'on est convaincu, ou du moins on pense que c'est quelque chose qui peut être bien pour le pays et que ça peut marcher, tout le monde va soutenir, même s'il y a quelques critiques. Des critiques, il y en a toujours.
Oui, ça, surtout, il y en a toujours. Ouais.
Voilà, surtout au Ghana.
Merci Lydia, non, merci
partout.
Beaucoup.
Merci beaucoup. En France merci, aussi, Lydia.
Bonne soirée. Tiens, on a Hamza Ramani qui nous rejoint. Bonne soirée. Notre spécialiste des équipes africaines. Salut Hamza.
Salut Gilbert, salut à tous.
T'as été bloqué par le Ghana, Hamza?
Ils ont fait un bon match, ouais. Ils ont fait un bon match. J'étais un peu inquiet sur la première période, mais le fait de voir une équipe valider ses temps forts, ça fait aussi du bien.
Exactement. Et alors, je rappelle quand même qu'ils ont perdu leurs trois gardiens.
C'est incroyable.
Le truc quand même de pas de chance, et ça à quelques jours à peine de la Coupe du Monde.
Et Ziggy est très bon, le quatrième est très bon.
Oui, il joue à Saint-Gall. Alors lui, c'est l'habituel troisième gardien, il joue en Suisse à Saint-Gall, mais effectivement, Wolacott qui joue en troisième division anglaise, je crois, Charlton, s'est blessé. Et quelques jours plus tard, son remplaçant s'est aussi blessé. Donc effectivement, on se retrouve, on a souvent des belles histoires comme ça, où t'as le gardien remplaçant qui arrive au cours d'une compétition, au cours d'un match. Bah là, pour Ziggy, c'est au tout début de la compétition, et pour l'instant, ça lui réussit, et ça réussit au Ghana.
Et là où ils ont été forts, Hamza, j'ai trouvé, c'est que en plus c'est dans le déroulement du match, c'est-à-dire que tu gagnes à zéro, ensuite ouais. tu te fais franchement foutre la tête sous l'eau en prenant tu perds 2-1 juste avant de rentrer dans les au vestiaire, et puis après tu rentres sur le terrain et tu t'en prends un troisième. Enfin, tout était contre les Ghanéens, et ils ont su vraiment très très bien réagir.
Ouais, effectivement, l'aspect mental, il est très très important. Et ce qui est, je trouve, intéressant de noter, c'est que on parle beaucoup, effectivement, nous on connaît André Ayou, mais c'est vrai que Mohamed Kudus, alors il performe en Ligue des Champions, évidemment, avec l'Ajax, mais c'est intéressant aussi de voir qu'avec toute cette politique de binationaux recrutés dont vous venez de parler, de savoir que c'est un enfant du CRU, un enfant de la formation ghanéenne, qui vient d'un Zongo près de Accra, du côté de Nima, qui porte aussi cette formation du Ghana, et qui avec son doublé permet au Ghana de s'imposer 3-2.
Il y a un truc
C'était clair ce qu'a dit Lionel sur le déroulé du match, parce que moi j'ai pas compris du tout.
Non, mais Lionel, il te dit qu'ils avaient tout contre eux, c'est-à-dire que quand les Coréens ont eu 2-2, tu te dis attention.
Ouais.
Tu vois,
personnellement, je pensais qu'ils allaient craquer. Enfin,
je pensais que les Ghanéens allaient craquer.
Moi, j'avais entendu qu'ils avaient été menés, quoi.
Non, mais par contre, on était à un moment. Enfin, moi, je pensais qu'on était plus proche du 3-2 pour la Corée.
Mal mené, pardon.
Dis-moi, ouais, Hamza, il y a un truc.
J'ai cru qu'il allait zapper, il était tombé sur un autre match.
Il y a un truc qu'on n'a pas souligné quand même. Les équipes africaines, là, à la Coupe du Monde, il n'y a que des coachs locaux, si je ne dis pas de bêtises.
Oui.
Sénégalais pour le Sénégal, Ghanéens pour le Ghana, Tunisiens. C'est du jamais vu,
c'est
en fait.
Inédit.
Ça.
Oui, mais c'est inédit en Afrique. Alors, mais après,
tu sais pourquoi? Moi, je vais te dire pourquoi, Gilbert.
Attendez les uns après les autres.
Est-ce que tu considères Gilbert,
Hamza d'abord, vas-y.
Regragui ou Aliou Cissé comme des locaux, parce qu'ils ont aussi bénéficié d'une formation ici. Maintenant, en termes de nationalité sur le passeport, effectivement, ce sont 5 coachs africains qui coachent leur sélection africaine. Moi, à titre personnel, j'en suis ravi, parce que avoir des Sven Goran Eriksson qui arrivent 3 mois avant une Coupe du Monde, qui prennent une génération dorée, telle que celle de la Côte d'Ivoire en 2010, pour se faire sortir au premier tour et pour repartir aussi vite qu'il est venu. Moi, ça m'agace. Donc, effectivement, je suis ravi de voir des coachs africains avec un projet qui s'installe dans un projet, même si pour Otto Addo, il va très vite retourner du côté de Dortmund. Mais...
Alors, Hamza, moi, je trouve que c'est un débat très intéressant. Arrêtons-nous 2 minutes là-dessus. Je trouve que, effectivement, là où tu as 100% raison, le mec qui vient en mission, genre, en gros, prendre la mallette, tu diriges l'équipe pendant la Coupe du Monde, en gros, t'en as un peu rien à cirer, machin. Effectivement, je suis d'accord avec toi, j'aime pas l'idée. Qu'on prenne un mec, un local, on va dire ça comme ça, c'est effectivement a priori très bien, sauf que le prendre uniquement parce que il a le bon passeport, mais au fond, où c'est un ami d'amis, tu sais souvent comment ça se passe, il est placé là, il est pote avec le patron de la Fédé. Moi, ce que j'aimerais, c'est non seulement que ce soit un Camerounais qui dirige le Cameroun, un Sénégalais, etc., mais qu'il ait une vraie identité de jeu. Ce dont souffrent le plus, selon moi, les sélections africaines, c'est qu'on fait un puzzle de joueurs. C'est souvent du pouce-ballon. Parfois, il y a des belles aventures. Parfois, on est déçu. Mais d'un point de vue du jeu mis en place... Souvent, il n'y a pas grand-chose. Le Sénégal, c'est comme ça. Le Cameroun, c'est comme ça.
Le Ghana, à la limite, on pourrait dire qu'ils ont toujours eu ce style très explosif, très en puissance. Bon, c'est un peu leur marque de fabrique. Les ouais, autres, le c'est
Ghana,
un peu c'est un, du...
Aujourd'hui, Daniel, le Ghana, c'est un assemblage de joueurs, finalement, avec tous les nouveaux
Ghanais. Oui, non, si mais on va dire, dans le passé, il s'était créé une sorte un peu d'identité autour de cette marque de fabrique. Un peu. Mais les autres, c'est un peu... On fait un puzzle. On pourrait... pas vraiment dire quelle est leur tactique au fond. On met les bons joueurs avec les bons joueurs. On essaye de bricoler un peu au dernier moment. Tiens, je vais voir s'il y a pas un binational à choper quelque part. Le vrai projet, Belmadi, quand il a pris à l'époque la sélection algérienne, on a compris le projet. Ça a duré. Il a fait une sélection de joueurs sur plusieurs années. Il a abouti à ce qu'il voulait quand il a gagné la CAN. Bon, après, on est passé à autre chose. Là, il est en situation d'échec. Mais il y a eu un projet construit aussi bien dans le jeu que dans les joueurs. Souvent, c'est un peu coup par coup. Tu vois, c'est comme ça, mais il n'y a pas de choses. Quelle est l'identité de jeu du Cameroun? Je l'aime beaucoup, Rigobert Song, mais c'est quoi? En fait, il motive les mecs dans le vestiaire, il tape dans les mains. Aliou Cissé, de la même façon, c'est des mecs pour qui on a beaucoup d'affection, parce qu'on sait qu'ils sont attachés à la sélection.
Aliou Cissé, c'est plus clair. C'est Aliou Cissé, on sait comment il joue, il a gagné la CAN avec une équipe qui a bien détonné, puis un talent devant.
Ouais, voilà, bah oui, bon, mais d'accord, c'est quoi ce style?
C'est un projet.
Oui, c'est ultra minimaliste, et tant mieux si j'ai Sadio Mané, quoi. Voilà, en gros. Bon, bref, mais une équipe qui profiterait du potentiel, qui essaierait de mettre un jeu en place, une vraie tactique, un projet de jeu. Ça c'est rare. C'est un peu de la préparation à la dernière minute.
La difficulté, après, hier, Daniel, soulevais, dans ce après, que tu soulevais.
Attends, juste pour faire avec Hamza, parce qu'il soulevait un problème hier, il avait raison, c'est qu'après, elles ont du mal à travailler tout ça parce qu'elles jouent pas toujours contre des fortes sélections quand elles se préparent. Et donc, c'est un peu
puis,
également
Daniel,
handicap.
Il y a un problème de stabilité. Aujourd'hui, si tu prends les cinq nations africaines, il y a moins d'un an, t'as eu une Coupe d'Afrique des Nations. Si tu prends les cinq nations africaines, le Cameroun a changé de sélectionneur, le Ghana a changé de sélectionneur, le Sénégal a gardé son sélectionneur, le Maroc a changé de sélectionneur, la Tunisie a changé de sélectionneur. Donc, quatre des cinq équipes aujourd'hui présentes en Coupe du Monde ont changé de sélectionneur depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, juste avant un barrage de Coupe du Monde. Donc, un barrage décisif qui te permettait ou non d'aller en Coupe du Monde.
Ouais, mais ça, c'est un handicap. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut. Ça fait partie de ma critique, en fait.
C'est la pression du résultat. De la même manière que les binationaux que tu vas chercher, juste avant une compétition, ça fait partie de la culture du résultat, la volonté de tout de suite performer. Tu vas prendre Iñaki Williams, qui pendant 10 ans a toujours refusé de porter le maillot de la sélection ghanéenne. Là, il y a une Coupe du Monde qui arrive. Toi, tu te mets en position où tu vas encore supplier un joueur. Cette fois, parce qu'il y a la Coupe du Monde, il vient. Le joueur, il vient pour la Coupe du Monde. Il vient pas pour le projet ghanéen.
Souvent ça fait du bricolage.
Rappelle-toi de Kevin Prince-Boateng, Monsieur Coupe du Monde, je viens pour la Coupe du Monde. Par contre, les matchs en Afrique,
je ne veux pas venir parce que j'ai autre chose à faire. Je dois jouer en club.
Lionel veut en placer une depuis tout à l'heure là. Vas-y Lionel.
Non, mais je suis d'accord avec Hamza. C'est ce que je voulais dire. C'est ce qu'a dit Hamza. C'est-à-dire que le problème, c'est que tu n'as pas le temps de construire. C'est très tard. C'est la moindre défaite tout de suite. Alors ça, c'est le gros problème.
Ça fait longtemps qu'il a avec le Sénégal.
C'est un exemple. Tout le reste, franchement, en Afrique, tu perds un match. Et de toute façon, à chaque match en Afrique, tu es sur la sellette. Soit par ta fédération, soit par ton gouvernement, soit par l'armée. Je connais très bien l'Afrique et c'est comme ça que ça se passe. Dans 99,9%, c'est comme ça que ça se passe. Tu perds un match. Alors, si peu, ça tout dépend aussi comment tu as perdu le match. Si jamais tu as fait jouer des locaux, tu as les pro-locaux qui vont dire... fallait mettre les locaux et puis tu perds le match, alors t'as les autres qui disent ouais mais c'était mieux de jouer avec les binationaux et les binationaux, pourquoi c'est comme ça? Parce que t'as des présidents de clubs qui sont plus intéressés de gagner avec des locaux parce que ça leur fait des transferts dans l'Europe, notamment dans des gros transferts, et donc ils ont un intéressement pour leur propre club, comme dans tous les clubs.
C'est quelque chose d'infime aujourd'hui.
Les transferts entre les pays
africains et les pays européens, ça se fait pas à coups de millions. Là, depuis quelques années, je vais prendre un exemple que je connais un petit peu, en l'occurrence l'Algérie.
Ça se fait de plus en plus.
On a le Paradou qui arrive à vendre quelques joueurs à 3-4 millions d'euros, mais c'est quelque chose d'extrêmement nouveau et d'extrêmement rare.
Ouais, mais tu multiplies. Mais le réservoir est tellement énorme
que tu multiplies ça. Non, je suis pas d'accord avec toi parce que justement, et ça c'était ma deuxième démarche, c'est-à-dire aussi, et là je suis pas trop d'accord avec toi Daniel, c'est-à-dire que les entraîneurs, même locaux, ont énormément progressé. Moi je suis allé je suis toujours instructeur FIFA, où j'allais voir les locaux que les entraîneurs d'élite de leur championnat. Je peux te dire que les mecs tactiquement, ils ont beaucoup beaucoup progressé par rapport au football africain qu'on pouvait voir. Et alors, c'est pour ça aujourd'hui que les dirigeants n'hésitent pas à mettre des locaux à la tête, parce que peut-être un petit peu inférieur à un mec comme disait Daniel, il a parfaitement raison, un mec qui vient qui est juste pour prendre le pognon, qui connaît pas le truc, et puis on préfère mettre un local. Mais c'est beaucoup mieux que ce que ça a été. Moi, je trouve que tactiquement et techniquement, c'est les Africains, ça joue. Mais rien à voir avant.
Très rapidement.
Faut qu'on parle de Cameroun, les gars.
Très, 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 très rapidement, Gilbert. Il y a quelques mois, on a eu le transfert de Karim Konaté, qui est le prodige du football ivoirien et peut-être même du football africain. C'est le premier gros transfert, entre guillemets, d'un joueur d'Afrique subsaharienne vers l'Europe, entre l'ASEC Mimosa et la Galaxy Red Bull. Il est parti du côté de Salzbourg.
Ouais, c'est mais là, tu parles. Là, tu parles que des. Il y a des retombées aussi, par exemple.
Vous voulez pas parler du Cameroun, vous ?
Quand des Africains. Ouais, mais quand il y a des Africains qui sont transférés, même au jour d'aujourd'hui, qui sont plus affiliés à l'Afrique, à leur club de d'origine, le club touche quand même une quote-part, hein, sur les transferts.
Ah bah oui, comme tout, c'est normal, c'est la règle FIFA.
Eh bah oui, c'est normal, mais ça, parle s'il te plaît. D'un transfert.
Qu'est-ce qui après ça continue.
Oui, mais dès qu'on parle de coach, quand je connais, tout, il est passionné.
Quand je connais, parce que c'est mon métier. J'ai été formateur.
Moi, j'aimerais que vous me donniez mon avis sur le Cameroun parce que c'était un match assez étrange. C'est-à-dire que le Cameroun démarre bien son match, ouvre le score, derrière se fait littéralement manger par la Serbie. Et on se voit, on se dit même à 3-1 après le but un peu d'école superbe collectivement des Serbes, que là ça, on va vers l'humiliation sans doute. Et puis il y a une espèce de, l'entrée d'Aboubakar a tout changé, et le Cameroun arrive en deux occasions là à se relancer complètement. C'est assez étonnant. Alors le Cameroun, franchement, moi j'étais
déçu
par le jeu du Cameroun, parce que tu as Zambou Anguissa.
Il n'y a pas de jeu.
En fait, c'est à 40 mètres avant.
Et c'est ce que j'ai expliqué avant. En fait, ça a ni queue ni tête. Et comme ça a ni queue ni tête, il peut se passer que si t'as un mec qui rentre, qui d'ailleurs devrait probablement être titulaire, il devrait jouer avec deux attaquants.
Aboubakar, il devrait maintenant. Oui, c'est sûr.
Le mec, il arrive, il te met un but venu d'ailleurs. C'est fou. C'est bien. En plus, c'est même pas une piche nette. Parce que faire une louche devant le gardien, c'est quand même assez rare. Tu te demandes
est-ce que tu ne crois pas qu'il se sentait hors jeu, qu'il a fait toutes tes contractions?
C'est ça.
Comme
ça n'a ni queue ni tête, c'est 2-3-1, tu passes à 3-3 parce que d'un coup ils se mettent à pousser. C'est comme je te disais tout à l'heure, tactiquement il y a rien dans ce que propose le Cameroun, c'est du pouce ballon. Et en qualité individuelle, si t'as un mec qui place la bonne accélération, ça donne la balle du 3-3. Le mec qui part à la limite du hors-jeu, le centre, belle conclusion, ça donne une belle action. T'as l'impression que tu vas revenir. Bon, voilà, tu sais pas trop à quoi t'en tenir avec cette équipe quand tu la regardes. Je suis désolé, on voit bien que Rigobert Song, il accompagne l'équipe autant qu'il peut.
Non, on parle beaucoup de Rigobert Song, Daniel, mais en fait, il faut savoir que le vrai coach de cette équipe, entre guillemets, alors on va même pas parler de Samuel Eto'o, président, est-ce qu'il est vraiment président, on va même pas parler de Samuel Eto'o.
C'est des coachs qui
dans le staff de Rigobert Song, Sébastien Minier, c'est lui l'entraîneur adjoint, voilà, sur le papier, mais on peut qualifier, en tout cas, c'est lui qui ramène les compétences tactiques, c'est l'ancien sélectionneur notamment du Kenya, je crois, lors de la Coupe d'Afrique 2019. Donc, c'est lui
qui. Il avait été adjoint de Claude Leroy aussi pendant un moment.
Ça se voit pas encore, ce qu'il met en place.
On parle de Rigobert Song. Après, est-ce qu'il a toutes les cartes? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est le staff qui fait la liste? Ça, c'est la question. Moi encore, j'ai la vidéo de Rigobert Song qui annonce sa liste des joueurs et qui bute sur le nom d'un joueur. On a l'impression qu'il découvre le nom de ce joueur.
On lui a donné la liste. Ce qui s'est passé
aujourd'hui avec André Onana. Enfin voilà, il y a plein de situations où il y a
le gardien qui a été exclu.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Alors, la fédération camerounaise parle d'un problème disciplinaire.
Vraisemblablement, Lionel, il y a
une embrouille sur comment jouer.
Sur l'aspect tactique, ouais.
Voilà, en fait, Song reproche à Onana de jouer souvent trop loin de sa surface avec le pied. Il y a notamment une scène qu'on a vue contre, lors du premier match contre les Suisses où il est devant avec le ballon au pied, devant ses défenseurs centraux. Et donc Song lui dit, bah non, faut que t'arrêtes.
Onana, reste... il joue en mode Ajax.
Non, mais Onana, c'est son style, en fait.
Bah, bien sûr, c'est son style.
Et Onana n'a pas apprécié, en fait.
Et comme l'équipe n'a pas de style, et donc après, le fait qu'il joue comme ça.
Pour, le long, c'était
pour jouer comme ça, il faut que tout le bloc équipe corresponde à ça, quoi. Sinon, comment tu fais? Il est dans la merde. Donc Rigobert Song, qui met rien en place, il flippe. Et puis il lui dit arrête de faire ça. Ils se sont
embrouillés. Mais il y a quand même un truc qu'il faut dire sur le Cameroun.
Tout ça, c'est ce que j'appelle, c'est les coachs qui tapent dans les mains. Ça.
Je trouve que c'est une force collective.
Je sais pas ce que t'en penses, mais exactement. Parce que regarde ce qu'ils ont fait contre l'Algérie.
Regarde, Gilbert, les grosses individualités que l'on connaît, nous, en Europe, et qui doivent. Enfin, moi, en tout cas, je me dis qu'ils doivent porter cette sélection. T'as qui? T'as Onana, qui joue dans un grand club européen. T'as Zambanguissa, qui, à mes yeux, est l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe cette saison. Et tu as Choupo-Moting, qui réalise la saison de sa vie et qui, même en sélection aujourd'hui, est en forme. Même un joueur comme Zambo, il a eu une Coupe d'Afrique des Nations très compliquée. Et là, j'ai pas le Zambo de Naples aujourd'hui avec
aujourd'hui,
la sélection
camerounaise.
Mais c'est normal. Autour de lui, il y a pas le jeu qui est mis en place. Ça tourne pas pareil. Donc lui, ouais, il est là. Quand tu joues, c'est exactement comme De Bruyne avec la Belgique, c'est pas le De Bruyne de Manchester City. Le Portugal, Bernardo Silva, c'est pas le même que tu vois. Bon, entre le foot de club, le foot de nation, tu fais aussi avec les mecs qui sont autour de toi.
Mais dans l'ADN du Cameroun, il y a un truc, les gars, quand même, c'est que je sais pas ce qu'ils ont, ces gars-là. Ils arrivent à transverser un match, des fois, sur des trucs.
Oui, mais eux, de toute façon, ils aiment bien l'embrouille.
Toko et Kambi.
Écoute, s'il y a eu une embrouille avant, c'est mieux pour eux.
Là, Choupo-Moting, tu le vois pas du match. Tout à coup, il est décisif. Aboubakar, il vient du banc. Alors que c'est à la CAN, c'était la star.
Mais ça, c'est leur force.
Ils ont ça quand même en eux.
Ils ont ça en eux.
Le Brésil, il faut quand même qu'ils se méfient un peu parce qu'ils peuvent un peu leur faire des trucs, les surprendre.
Après, pourquoi pas, après tout. Hein. Mais moi, je vais dire très honnêtement, moi, le Cameroun, je n'en ai pas cher dans leur peau avant la compétition sur cette poule. Ils m'ont agréablement surpris sur la première heure de jeu face à la Suisse. Ils m'ont agréablement surpris aujourd'hui, pas dans l'aspect football, mais plutôt dans l'aspect intensité, dans l'aspect force collective et solidarité. Et ça leur a permis d'obtenir ce match nul. Après, moi, je pense qu'il y a quand même un écart, même avec une éventuelle équipe B du Brésil, trop important. Mais sur un scénario de match où il y a un but d'écart, où il y a toujours 0-0, ça bute, où tu défends bien, etc., on ne sait pas ce qui peut se passer.
Mais je veux dire, le Cameroun n'attendait qu'une chose, c'est que le Brésil gagne ce soir. Justement pour se dire, ils vont être relâchés sur le troisième match contre nous. Bon, on verra bien ce que ça donne, mais il y a quand même un écart effectivement conséquent entre les deux équipes.
Et au final, c'est le sûr. Cameroun, je considère déjà leur Coupe du Monde comme réussie, quoi. Enfin, si on prend pas les propos de Samuel Eto'o qui voyait son équipe gagner.
Une défaite, un match nul, tu trouves ça réussi?
C'est pas aussi réussi. Hein.
Ah ben moi je t'assure, autant sur les autres pays africains, tu pouvais espérer un minimum. Franchement, sur le Cameroun, honnêtement, alors on peut te dire oui, les matchs amicaux,
si ils ont réussi, le Maroc, ils vont faire quoi alors en allant 8e, Ghana peut y aller aussi.
La qualité individuelle de cet effectif, ce qui se passait sur les dernières semaines depuis le match amical en Ouzbékistan, le match amical face à la Corée du Sud, les matchs amicaux face au Panama et face, je crois, à la Jamaïque. Enfin, honnêtement, il y avait une grosse. Enfin, moi, j'étais réellement inquiet, j'avais peur du ridicule. Honnêtement, la satisfaction, c'est qu'il ne soit pas ridicule.
Merci Hamza.
Il y a un dernier mot, je crois, de Rigobert Song sur le match face au Brésil.
Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. C'est de ça qu'il s'agit.
Cette phrase, il a prononcé cette phrase avant le barrage retour face à l'Algérie. On l'a tous pris pour un fou. Je peux t'assurer.
Tu l'as gardé dans ton téléphone.
Gilbert, que cette phrase, elle résonne en moi tous les jours et tous les soirs.
Merci Hamza, bonne soirée. Dans un instant, le reste de l'actu du jour hors Coupe du Monde avec Johan Crochet pour parler de la Juve, entre autres. À tout de suite.
RMC After Foot, Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Avec Lionel Charbonnier, avec Daniel Riolo. Je rappelle, par ailleurs, je ne l'ai pas dit, que bien sûr, il faut télécharger l'appli RMC pour avoir les podcasts de l'After, évidemment. Écouter l'antenne à qualité optimale. Et aussi, si vous le désirez, écouter la radio 100% Coupe du Monde, une radio numérique disponible uniquement sur l'appli 24h sur 24. Et puis, la revue de l'After, je le rappelle, est toujours en kiosque. Elle est là pour vous, avec en plus une offre spéciale Coupe du Monde sur afterfoot.media. Allez-y, vous pouvez faire de bonnes affaires pour vous abonner sur afterfoot.media. Johan Crochet nous rejoint pour une actu hors Coupe du Monde importante ce soir. Salut Johan.
Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous.
Alors là, tu reprends ta casquette italienne, tu reposes ta casquette néerlandaise. Et on apprend ce soir, je sais pas si toi tu avais des échos de ça en Italie, mais que Agnelli allait quitter la Juve, tout comme Nedved qui est vice-président. Donc c'est un coup de tonnerre tout de même là.
Personne ne s'y attendait. C'est simple, hein, quand on a reçu la notification il y a quelques heures, tout le monde parlait de choc après cette annonce. Alors en fait, c'est pas une démission seule d'Agnelli ou de Nedved, c'est tout le conseil d'administration qui a décidé de démissionner. Donc il y a 10 personnes dans ce conseil d'administration. Il y a aussi l'administrateur délégué Maurizio Arrivabene, l'ancien de Ferrari. Alors lui, l'actionnaire lui a demandé de rester, donc a priori il devrait rester aux commandes jusqu'à l'intronisation du nouveau conseil d'administration qui devrait arriver le 18 janvier prochain. Et ce qui est intéressant de se demander comme question, c'est pourquoi on arrive à une telle situation. Raison numéro un, et qui a été expliquée très rapidement dans le communiqué officiel de la Juve, il faut savoir, alors on va le faire très rapidement parce qu'il faudrait quasiment une demi-heure pour tout raconter ce qui se passe en ce moment du côté de la Juve, mais il y a le parquet de Turin et la Consob c'est l'autorité qui régule la bourse italienne, et comme la Juve était cotée à la bourse italienne, d'ailleurs ils sont passés à la bourse d'Amsterdam entre temps, le groupe Exor, mais la Juve est toujours cotée à la bourse italienne, a émis de sérieux doutes, on va dire ça comme ça, et a ouvert une enquête sur les bilans financiers de la Juve. Leur était reproché, souvenez-vous, ces fameux doubles transferts, ces doubles transactions un peu louches que la Juve a beaucoup industrialisées, que d'autres clubs ont fait aussi, ne pas oublier que d'autres clubs en ont profité, où ils estimaient que les valeurs étaient gonflées, ça c'était le premier point, et donc ça avait permis de améliorer les bilans de manière artificielle. Et la deuxième chose, c'est l'histoire des salaires pendant le Covid, où la Juve avait annoncé que les joueurs avaient accepté de se voir reporter 4 mois de salaire et avaient précisé on verra ensuite l'état économique du club pour voir quelle partie sera reversée aux joueurs un peu plus tard quand ça ira mieux, etc. Sauf qu'on ne sait pas vraiment tout au parti pour quels joueurs dans les joueurs qui sont partis, dans les joueurs qui sont restés. Il y a l'histoire du contrat de Ronaldo aussi, où il y avait un fameux papier qui avait été signé, où en fait lui, pour Ronaldo, le salaire avait été différé mais totalement payé, etc. Et ça n'avait pas été vraiment annoncé clairement aux autorités. Donc il y a toute cette enquête-là du parquet et des autorités financières italiennes.
Ça va pas fort sur le terrain, ça va pas fort dans les bureaux.
Voilà, c'est ça. Et donc Agnelli a annoncé que tout le conseil d'administration démissionnait. Il a envoyé un mail en interne à tous les salariés de la Juve en disant c'est mieux de laisser la place à d'autres personnes parce que on vit un moment très difficile. Et il y a une phrase qui est importante, il précise on a manqué d'unité. On n'a pas la même unité, on n'a plus la même unité que d'habitude. Il parle au niveau des dirigeants et du conseil d'administration.
Alors, le club appartient toujours
oui, bien sûr, c'est la famille.
À la famille. Il y a Exor, le fonds, la holding exacte, c'est Exor.
Bah, oui. Et donc, ça veut dire que tu penses que c'est... Enfin, je ne sais pas si tu as déjà vu des échos ou quoi. On peut se poser la question de la suite, maintenant. Et puis, autre question...
Non, ça reste. Après, il nomme quelqu'un qui est du groupe ou encore de la famille. Ou, bon, là, dans la famille, le problème, c'est qu'ils ont tous des postes, déjà.
Ouais.
Donc, ils prendront... D'abord, ils vont faire une sorte d'administration...
Le favori, c'est un autre cousin de John Elkann, mon cher Daniel. André Agnelli était cousin de John Elkann, mais un autre cousin, c'est Alessandro Nasi. Qui était déjà, alors désolé pour son nom prononcé, mais c'est la véritable prononciation. Voilà, c'est comme ça. Il était déjà évoqué cet été, souvenez-vous, l'été dernier, où c'était un peu chaud pour Agnelli après la mauvaise saison de la Juve. On commençait à évoquer l'impatience de John Elkann, etc. Et finalement, Agnelli était resté. Mais ça pourrait être.
Dans la famille, l'intelligent, le fort, le brillant, c'est John Elkann.
Ah, c'est John Elkann, ça c'est clair. Mais lui, il a tellement de responsabilités qu'il ne peut pas.
Non, lui, il ne pourra pas redescendre.
Alors, autre question, est-ce que ça va changer quelque chose dans le combat de la Super League? Parce que lui, c'était mec à la pointe.
Non, rien à voir.
S'il sort du foot.
Moi, je
suis. Tu penses qu'il va rester dans le foot quand même là-dessus?
Autre phrase importante dans son mail, Daniel. Il a dit je continuerai à combattre pour un football moderne, ou je sais plus quelle phrase il utilisait.
Demain il peut prendre un autre drapeau, celui de la Super League, en disant je suis plus président de la Juve, mais
tu veux dire qu'Agnelli aille faire autre chose.
Oui, ou alors qu'il sorte du foot, ça, et que du coup peut-être le combat soit, comment dirais-je, un peu moins intense.
Franchement, Agnelli, s'il quitte le foot, ce sera une perte pour personne. Je pense que ils l'ont nommé parce qu'il nomme quelqu'un de la famille. Comme je disais, Elkann, c'est l'intelligent. Lui, j'ai l'impression que c'est un peu
pas, non, pas un gros après, il avait bien bossé avant, Daniel. Effectivement, ouais, les dernières années sont très compliquées.
Moi, je l'ai toujours trouvé un peu à côté. Certes, il mettait en avant sa passion. Il a nommé des gens autour de lui qui avaient une valeur symbole pour la Juve. Non, même sur le plan
industriel, il a pris des bonnes décisions, Daniel, comme on ne peut pas renier.
Pour la politique du club.
Ouais, le poste Calciopoli, à partir de 2010, il y a eu des bonnes choses de faites quand même.
Ouais, enfin, si le club en est arrivé là, c'est que sur les dernières années, au contraire, ça s'est pas bien passé. D'accord. Les choix ont été mauvais dans la gestion
Juste pour terminer, tu disais, pas si ça va changer pour quelqu'un ou si quelqu'un va le regretter, mais un qui pourrait le regretter, c'est Max Allegri. Parce que c'était son soutien numéro un. Et aujourd'hui, si ça retourne un peu mal du côté de la Juve, il y aura plus le lien d'amitié très profond entre le président et l'entraîneur qui pouvait lui sauver un petit peu les fesses, pour le dire un peu vulgairement.
Il est tard.
Et puis, la dernière info, c'est le Financial Times qui donne cette info aujourd'hui. On y reviendra, mais le prix du PSG a vraisemblablement été fixé par les Qataris eux-mêmes. On estime à plus de 4 milliards d'euros.
Ah merde, ça va être dur là.
Voilà. Alors quand on commence à fixer un prix, ça veut dire qu'on est prêt à recevoir des offres, parce que c'est comme ça que je le prends.
Je comptais investir, mais ça va être un peu compliqué.
Ah oui, là, il va falloir que les mallettes arrivent.
Ouais, dans les mallettes, il n'a jamais été question qu'il y ait autant.
Peut-être qu'ils ont donné ce prix-là parce qu'ils savent qu'il n'y a personne qui le donnera.
Merci Lionel. Merci Daniel.
Salut les copains. Salut à tous.
Avec la libre antenne de Nico Villas et Thibaut Jeungrande qui sont là, bien sûr.